BFM Business, élu média de référence sur l'économie. BFM Business, premier sur l'écho. BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Edwige Chevrillon, Guillaume Paul.
Il est bientôt 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc cette course pour Matignon qui s'accélère avec un nom qui tient la corde ce soir, c'est celui de Thierry Baudet, l'actuel président des 16, bien sûr, qui sera avec le grand sujet de notre discussion ce soir sur BFM Business. Edwige, j'arrive à l'instant, mais vous allez prendre votre micro parce qu'on va parler pouvoir d'achat avec notre invité.
Absolument, je discutais avec lui justement, Dominique Schellcher, le président de la coopérative U, c'est comme ça qu'on maintenant on dit, alors qu'avant il était président. La rentrée scolaire, il me disait, les dés sont jetés, ça y est, c'est bon, on a fait une bonne activité au mois d'août. Il y a beaucoup de questions, il y a ce modèle de la grande distribution, est-ce qu'il y aura d'autres restructurations lorsqu'on voit Casino, Auchan, on voit que ce n'est pas évident, et même Carrefour, est-ce qu'il y en aura d'autres? On parlera de loi Egalim, il n'y a plus le ministre de l'Agriculture, avant ils passaient tous les deux jours, ils allaient à Bercy, maintenant ils n'y vont plus, tu me diras, ça leur fait un peu des vacances. Mais en même temps, il y a la question de savoir s'il y aura une, deux dates butoirs, beaucoup de discussions, puis bien sûr aussi les rapports avec l'agriculture, là c'est quand même beaucoup plus sensible.
Dominique Schellcher, dans 10 minutes, on débriefera tout ça avec nos experts, avec vous Edwige à partir de 18h30. On parlera aussi de cette percée de l'extrême droite en Allemagne qui fait beaucoup causer. Et puis on parlera un petit peu pouvoir d'achat salaire parce que les fameuses NAO, comme on dit, commencent à l'automne et ça s'annonce déjà haut en couleur. On a des chiffres qui nous le démontrent par A plus B. Voilà le programme, on est ensemble bien sûr jusqu'à 20h sur BFM Business.
Good evening business, le journal.
Donc, pour ce qui va s'installer à Matignon depuis quelques heures, le nom de Bernard Cazeneuve, qui a été reçu ce matin, ne semble plus d'actualité. Celui qui monte en revanche, bonsoir Corinne Morisseau.
Bonsoir.
C'est celui de Thierry Baudet, qui est l'actuel président du CESE. Qui est Thierry Baudet, Caroline?
Alors, Thierry Baudet, il a 62 ans. À l'origine, c'est un instituteur de formation. Alors, il est parfaitement inconnu du grand public, en effet, mais c'est quelqu'un qui a eu une belle carrière dans le secteur mutualiste. Il a été patron de la MGEN, la Mutuelle de l'Éducation Nationale, puis patron de la Mutualité Française, la puissante mutuelle qui regroupe tous les acteurs de la fonction publique. À ses postes, il s'est forgé une solide réputation. Il est très à l'écoute, nous dit-on. Il cherche tout le temps le consensus. Il a réussi à faire bouger les lignes, nous dit-on, dans le monde très figé du secteur mutualiste. Et c'est ce qui lui a valu d'être élu il y a 3 ans au Conseil économique et social. Alors, son profil présente plusieurs avantages. C'est quelqu'un qui n'a pas d'étiquette politique, qui est difficilement contestable à gauche comme à droite, ce qui pourrait, je dis bien pourrait, au conditionnel, permettre d'emblée une motion de censure. Autre atout, même s'il n'a pas exercé de fonction politique, c'est quelqu'un qui a aguerri aux négociations, qui connaît très bien les partenaires sociaux, les syndicats comme le patronat, ce qui pourrait permettre de faciliter les choses s'il faut les remettre autour de la table sur des sujets aussi clivants comme le SMIC ou la réforme des retraites. Et puis, autre avantage, c'est pas un excité, nous dit-on, c'est quelqu'un qui est plutôt discret, réservé. En clair, pas de quoi faire de l'ombre à Emmanuel Macron, ce qui est aussi un avantage sans doute pour sa nomination.
Il a l'art du consensus, disent certains. Voilà. Il y a une déclaration de François Asselin, le patron de la CPME, il faudra aussi qu'il ait l'art du dissensus sur certains sujets quand il faudra trancher, évidemment.
Voilà, il faudra qu'il sache taper du poing sur la table.
On verra en tout cas si c'est le nom qui émerge, si c'est lui qui est nommé peut-être ce soir, peut-être demain par Emmanuel Macron au poste de Premier ministre. Thierry Baudet peut-il être l'homme d'une certaine forme de consensus? On en parlera bien sûr largement avec nos experts qui arrivent tout à l'heure à 18h30 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc aussi bien sûr toutes ces questions en Allemagne, avec les très gros scores enregistrés par l'AFD, l'extrême droite en Saxe et en Thuringe. J'ai d'ailleurs arrivé en tête en Thuringe hier soir. Gros désaveu pour le chancelier Olaf Scholz qui va remettre son mandat en jeu dans un an seulement. Regine Ralesch.
C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. L'AFD devient le premier parti d'extrême droite à remporter un scrutin régional en Allemagne. Des résultats dont se félicite Tino Chrupalla, coprésident du parti.
Nos résultats sont incroyables en Thuringe. Dans la Saxe, ils sont très bons. Les électeurs ont fait un choix clair. Ils veulent que l'AFD gouverne. Ils veulent que l'AFD ait des responsabilités. C'est la volonté du peuple.
Malgré ces résultats historiques, peu probable que le parti gouverne la région. Aucune des autres formations politiques ne souhaitent faire alliance avec eux. Pour le candidat CDU aux élections de Thuringe, la montée des extrêmes incombe au gouvernement Scholz.
Bien sûr, nous constatons que l'AfD est en train de gagner des voix, et c'est aussi le résultat de la mauvaise politique de Berlin. Et nous voulons contrer cela ici en Thuringe avec de bonnes politiques.
En perte de vitesse, l'exécutif paie le mécontentement des Allemands en partie nourri par l'inflation et l'immigration. Prochain test pour la coalition, l'élection régionale qui se tiendra le 22 septembre dans le Brandebourg.
Régine Dralèche avec nous sur BFM Business, puis puisqu'on parle de l'Allemagne, cette info de l'agence France-Presse qui affirme, document à l'appui, que Volkswagen envisage très sérieusement de fermer des sites directement en Allemagne. L'Allemagne perd de plus en plus de terrain en termes de compétitivité. Voilà ce qu'écrirait notamment le patron de Volkswagen, Oliver Blum, dans ce document qu'apparemment l'agence France-Presse a pu se procurer. 18h04, dans l'actualité des entreprises toujours, encore des inquiétudes aussi chez Atos. Le groupe a encore annoncé ce matin qu'il revoyait à la baisse ses prévisions de résultats pour les deux prochaines années. Le problème, vous savez, c'est qu'Atos a beau s'être restructuré, l'effort risque de ne pas être suffisant pour se redresser. Mathieu Pechberti.
Atos n'a pas encore bouclé sa restructuration, qu'un deuxième sauvetage est dans tous les esprits. Le groupe a revu pour la deuxième fois en 6 mois ses perspectives de résultats. Pour cette année d'abord, sa marge sera près de 2 fois inférieure à celle que le groupe prévoyait début avril. Un effet domino qui va se prolonger jusqu'en 2027. Là aussi, la marge est attendue désormais à seulement 1 milliard d'euros, soit 300 millions de moins qu'il y a 6 mois. Dans le secteur, personne ne croit à son redressement commercial, alors que les leaders Capgemini et Sopra Steria ont revu aussi à la baisse leurs prévisions de chiffre d'affaires. Malgré sa restructuration, Atos va retrouver un taux d'endettement très élevé, et ce, dès 2026. Les créanciers valideront à la fin du mois leur reprise du groupe. L'un d'eux nous assure que des choix stratégiques majeurs seront faits dès l'année prochaine. Les deux anciens candidats au rachat d'Atos, Daniel Kretinsky et David Layani, restent en embuscade.
Mathieu Pechberti qui nous fait suivre depuis un moment, et apparemment ça n'est pas fini bien sûr, ce dossier Atos sur BFM Business. Et puis alors, l'autre grande actu du jour. Et alors, c'est là pour le coup, on ne l'avait pas vu venir. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Xavier Niel est depuis hier membre du conseil d'administration du chinois ByteDance, maison mère de TikTok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Oui, puis surtout de la maison mère, c'est pas juste la division française ou la division européenne. Donc ByteDance, on les connaît évidemment, l'une des marques les plus connues, c'est TikTok, hein, parce que ByteDance c'est un immense conglomérat d'origine chinoise, ce sont deux Chinois qui sont à la création. C'est des réseaux sociaux, donc on l'a dit, comme TikTok, c'est des jeux vidéo, c'est de l'intelligence artificielle. Et derrière ByteDance, qui on a de très gros fonds, on a le Sequoia Capital, on a General Atlantic, on a KKR, donc Xavier Niel est l'un des administrateurs. Voilà, ça peut être un peu le lien entre les deux. On a des gens comme le japonais SoftBank. Et donc, alors, d'un côté, pour Xavier Niel, c'est quand même assez exceptionnel. C'est quand même la reconnaissance d'un entrepreneur français par l'establishment chinois de ByteDance, en tout cas. Donc, voilà, il faut quand même reconnaître ce côté-là, l'entrepreneur français. Il remplace d'ailleurs une personne, Philippe Lafond, voilà, Philippe Lafond, qui était le patron du fonds spéculatif Coatue Management, qui était un fonds américain. Il le remplace, place pour place au siège. Mais voilà, donc d'un côté, pour Xavier Niel, reconnaissance internationale, voilà, de tout ce qu'il a fait. Et puis, peut-être quelques ouvertures de canaux d'adresse vers le marché asiatique, pourquoi pas, pour investir davantage dans l'intelligence artificielle. Et puis de l'autre,
À l'Europe aussi, accessoirement, peut-être.
Et pour les Chinois, pour eux, c'est peut-être avoir un conseiller qui connaît bien le marché européen, les méandres un peu du marché numérique européen avec toute cette réglementation. Et donc voilà, c'est gagnant-gagnant.
C'est gagnant-gagnant et donc il est opérationnellement membre du conseil de direction. Pas de rôle exécutif,
mais il participera aux décisions, aux décisions stratégiques, aux votes, etc.
Et bien voilà, c'est officiel depuis hier. Frédéric Simotel, merci beaucoup. Frédéric, 18h07, on va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On a terminé dans le vert ce soir à la Bourse de Paris.
L'épaisseur du trait, on va dire. Plus 0,2%. Mais c'est vrai que c'était une séance très très peu active parce qu'il n'y avait pas de journée boursière du côté de Wall Street. C'est jour férié aux États-Unis, c'est leur fête du travail. Donc, volume d'échange très maigre. On est resté sous les 2 milliards d'actions négociées. On s'est arrêté à 1,7 milliard sur les valeurs du CAC 40. Donc, plus 0,2%, 7 646 points contre. Performance marquée du secteur des technos avec l'Euronext Tech Leaders qui perd 0,54%. Le DAX à Francfort, plus 0,13, plus 0,3% pour l'Euro Stock 50. Donc un marché relativement peu actif. Notez quand même la belle hausse de Sanofi avec une série de nouvelles dans le domaine de la recherche contre la sclérose en plaques. Et là, le marché y a vu une occasion d'achat. Le titre signe la plus forte hausse du CAC 40 en clôture, plus 3,6% à 104,86€. Mais vous voyez, les autres valeurs en hausse, c'est plutôt des valeurs défensives. Orange, plus 1,65€, 10,47€. Pernod Ricard, plus 0,8%, 129,85€. À la baisse, toujours beaucoup de pression vendeuse autour de Téléperformance, qui perd encore 3% à 95,86€. Pression vendeuse aussi autour du secteur du luxe, parce qu'on a eu des mauvais indicateurs du côté de la Chine, les PMI notamment ce matin. Kering signe une baisse de 0,8% à 256,85€. Plus forte baisse du SBF 120, c'est Emeis, moins 12%, 7,90€. Et puis Atos, dont vous avez parlé, avec un nouveau warning, et le titre perd 7,3% à 76 centimes d'euros. Le CAC donc sur une légère hausse, plus 0,2%. L'euro 1,1068. Puis il y a un facteur à suivre, c'est un petit peu de volatilité autour du brut, du pétrole brut. On est repassé sous les $77 en séance. Là, on remonte légèrement au-dessus à 77,45. Guillaume.
Merci beaucoup, Antoine. On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street. C'est la mi-séance, bien sûr, sur le marché américain. Le Dow Jones qui grappille 0,55%, 41 563 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui, à la mi-séance, le marché américain est fermé. Je vous ai donné des cotations d'un marché fermé.
C'est génial.
Rendez-vous demain à la même heure, donc.
Rendez-vous demain à la même heure, mais voilà. Oui.
On a du mal à casser.
Effectivement, jour de la fête du travail aux États-Unis.
Absolument, voilà. Wall Street est donc fermé. Autant pour moi. 18h09 sur BFM Business. Dominique Schœlcher, le président de la coopérative U, et donc l'invité d'Edith Chevrillon. C'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edith Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Ça y est, on est. Bonsoir Dominique Schœlcher.
Bonsoir Edith Chevrillon.
Vous êtes président de la coopérative U. Jusqu'à peu, vous étiez président de Système U. Coopérative U, ça fait mieux, ça fait plus près des agriculteurs.
C'est pas du tout ça, c'est qu'on assume complètement ce qu'on est depuis 1894, le premier jour. Ça fait 130 ans qu'on est une coopérative, on n'a jamais osé le dire. Et un de mes prédécesseurs dans les années 80 a inventé ce mot système pour regrouper l'ensemble de nos enseignes. Mais voilà, c'était 13 années 80 et on avait envie juste d'assumer qui on est. On est une coopérative, on est des gens qui fonctionnent différemment. Il n'y a pas d'actionnaire à l'autre bout du monde. On est en proximité, on est décentralisé, ça c'est très important. Et donc on l'assume et on le dit aux gens.
Voilà, donc ça y est, on l'a dit, je l'ai dit. On reviendra du reste sur le modèle de la grande distribution, oui. Parce qu'on voit bien que le modèle tel qu'il existe aujourd'hui ne fonctionne plus, enfin du moins certains modèles, et que la grande distribution peut connaître quelques difficultés. On a déjà connu, évidemment, il y a quelques mois avec la chute de Casino. C'est la rentrée des classes aujourd'hui.
Oui.
Est-ce que c'est une rentrée scolaire, une rentrée tout court, sous pression du pouvoir d'achat, Dominique Schœlcher? Comment ça s'est passé?
Les Français restent sous pression du pouvoir d'achat, mais ce qui est très intéressant, je viens, avant de venir vous voir, de recevoir une étude qui dit que le moral des Français par rapport à la rentrée il y a un an va mieux sur sérénité et sur confiance. Alors c'est pas non plus spectaculaire, il y a encore des choses négatives, mais ça va beaucoup mieux, la courbe s'est vraiment inversée. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens voient quand même que l'inflation ralentit, cette fameuse hyperinflation est derrière nous, même si les prix commencent à baisser légèrement, sensiblement, ils voient bien que ça va un peu mieux, et je pense qu'il y a un effet JO dans leur tête. Donc pour répondre à votre
question... Un effet JO. Enfin.
Bah oui, c'est-à-dire que il y a ce projet qui était longtemps discuté, etc., qui arrive, qui se vit bien. Les Français passent un moment formidable autour de la victoire de nos athlètes, etc. Je pense que ça a semé une petite graine et que dans ce sondage, quelque part, ça le retraduit. Et j'espère que cet esprit, on va dire, olympique, va perdurer un peu.
Est-ce que c'est aussi peut-être parce que il y a eu quand même l'effet olympique, donc ça c'est un point important, surtout si ça vient vérifier dans une étude que vous avez reçue juste avant de rentrer là en studio, mais sur le aussi peut-être le fait que l'inflation baisse, ça joue beaucoup, même si ça ne se traduit pas encore dans les prix.
Oui, absolument. C'est ce que je disais à l'instant. Je pense que ça joue parce que encore aux récentes élections législatives, le sujet numéro un de préoccupation, c'était le pouvoir d'achat. Il le reste, mais ils sentent que ça va un peu mieux. Et un excellent exemple, on en parle souvent avec vous ici sur ce plateau, c'est le carburant. Le carburant est au plus bas depuis janvier 2024. Donc ça, ils le voient aussi. Le plein coûte moins cher. Donc c'est une petite série de bonnes nouvelles, même si tout n'est pas parfait. Donc ça leur fait du bien, ils le traduisent quand ils le disent.
Juste, on reviendra sur la question du carburant avec quand même ce coup de bluff, coup de pub, comme vous voulez, de Total Energy. Mmh. Vous nous direz ce que vous en pensez, parce que c'est une grosse annonce de Patrick Pouyanné sur BFM TV, alors qu'au moment où les prix du carburant baissent, donc ça fait un petit peu bizarre, on a envie de lui dire, vous savez, le prix du pétrole, il a baissé, mais ça, c'est encore un autre débat. Sur les prix dans vos magasins, qu'est-ce qui a baissé? Parce qu'on a bien vu que les Français, ils achètent de moins en moins tout ce qui est un tout petit peu superfétatoire par rapport à leurs premiers besoins.
Ils vont complètement à l'essentiel et donc par exemple tout ce qui est non alimentaire, bazar, textile, qui n'est pas nécessaire au quotidien, ils le laissent tomber. Par contre, qu'est-ce qui baisse? Un, la rentrée des classes. Chez nous, environ 2% en moyenne aux produits de moins, grâce notamment à une forte baisse sur tout ce qui était le papier cette année. Le papier était monté très fort.
Ah bah oui, ouais.
Il a baissé significativement cette
donc
année.
Les cahiers scolaires sont moins chers que...
Voilà, les cahiers sont très nettement moins chers, quasiment à deux chiffres. Ensuite, tout ce qui baisse, c'est les produits de droguerie, parfumerie, hygiène, qui étaient montés assez haut. Pareil, le papier WC, le papier essuie-tout, tout ça est en baisse. Et après, sur l'alimentaire, c'est un peu moins spectaculaire, mais je vous assure que depuis le mois de mai, et je l'ai encore fait samedi dans mon magasin pour répercussion cette semaine, les prix baissent sur l'alimentaire, les produits frais, l'épicerie, ça baisse.
Votre magasin à Fessenheim, comme on
absolument,
le sait
absolument.
Le célèbre système U de Fessenheim. Est-ce que c'est peut-être aussi les effets de la loi de Creusaille, non, sur tout ce qui est hygiène, beauté, le fait que ça baisse, non, finalement
sur l'hygiène, beauté. Joué sur l'hygiène beauté, c'était notre engagement. Il y a un peu moins de promos. Par contre, on baisse les prix au quotidien sur l'ensemble des produits. Donc, c'est vrai, il y a eu aussi cet effet-là. Mais en plus de bonnes négociations qui ont permis de baisser les prix.
Oui, donc quand même, la loi de Creusaille, elle a quand même finalement servi à quelque chose.
Elle a servi à...
On sent que ça, vous avez du mal à le dire, Dominique Schelcher. Bête noire des grands distributeurs.
Oui, elle a servi à ça, mais elle a aussi parfois compliqué certains éléments de la négociation commerciale avec les très grands industriels. La transparence n'est pas tout à fait au rendez-vous. Et d'ailleurs, avant l'été, on discutait avec les parlementaires, avec plusieurs de leurs représentants, sur comment améliorer et faire, alors je ne sais pas si c'était un Egalim 4 ou en tout cas une amélioration de certains éléments pour être encore plus pertinent. Et ça, malheureusement, la situation politique actuelle a tout coupé. Et la grande question que j'ai en tant que distributeur ce soir sur votre plateau, c'est à quelles conditions vont être mangées les prochaines négociations commerciales? Y aura-t-il encore du changement? On se pose des questions sur les dates, etc. On n'a pas la réponse aujourd'hui.
Oui, mais pourtant, les négos commerciales, elles doivent commencer mi-novembre. Comment vont-elles se dérouler? Je faisais un débat dans le cadre de la REF,
oui,
entre Thierry Cotillard, vice-président de la FCD,
et Arnaud Rousseau,
de votre fédération, hein, et Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il fallait deux d'abattoirs, on va revenir là-dessus. Oui. Et surtout, il disait, on a besoin d'une loi Egalim. Juste un problème, c'est que avant, on passait notre temps à Bercy. Maintenant, on le fait plus, donc ça fait des vacances. Mais du coup, rien ne peut se passer de nouveau. Donc, ça veut dire que vous allez passer, ces négociations commerciales, on repart un an en arrière, quoi.
Ouais, de
tout
la
ce
même
qui s'est passé avant, terminé, ça sert à rien.
Tout à fait, de la même façon que l'année dernière. Et dans le débat que vous avez animé, il y a une proposition qui a été évoquée, mais que nous, on abordait dans les propositions faites aux parlementaires avant l'été. Cette proposition, elle est sur la table depuis plusieurs mois. C'est que les négociations s'organisent en deux actes. Premier acte, entre les industriels et les agriculteurs, où on négocie les grandes matières premières agricoles avec un contrat. Et deuxième acte, ces industriels forts de ce contrat-là viennent nous voir et nous disent, voilà, j'ai signé avec l'agriculteur, ça, selon la loi Egalim, vous ne pouvez pas le négocier, acceptez mon prix. Et nous, on adorerait pouvoir discuter dans ces conditions-là. On soutient cette mesure. J'ai juste un bémol. mettons de côté les PME, parce que le boulot administratif, c'est parfois compliqué pour elles. Il faudrait faire ça pour les très grandes entreprises, grosses acheteuses de blé, grosses acheteuses de lait, d'autres céréales, etc. Ce serait une excellente idée.
Oui, d'abord, est-ce que ça a avancé? Parce que là, lors de ce débat, c'était mardi dernier, ils se sont dit banco, t'as mon 06, j'ai ton 06. On sait qu'en ce moment, c'est un peu pour la FNSEA, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le rendez-vous dès le prix... Là, cette semaine, il a été pris, vous savez, ou pas?
Il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les industriels sont vent debout contre cette disposition et n'en voudront jamais et donc se battent déjà contre. Ça, c'est clair, ils l'ont dit, ils n'en veulent pas. Alors que vraiment, ça faciliterait la vie. Et voyez bien qu'il y a plusieurs acteurs, les agriculteurs, les distributeurs qui le demandent. Et ensuite, non, j'ai pas entendu que le rendez-vous ait été pris. C'est très compliqué en ce moment. On a des ministres démissionnaires en face de nous. Tout le monde est à l'affût du nouveau gouvernement. Donc, faut attendre, je pense, pour ces décisions-là, le prochain gouvernement.
Et vous voulez un ministre du commerce? Non, pas de l'agriculture, oui, mais du commerce aussi.
Mais bien sûr, ce sera notre petit point de vigilance. On sait qu'on aura un ministre de l'économie. Il y aura un ministre de l'agriculture. Parfois, dans les gouvernements
absolument
passés, il n'y avait pas toujours de ministre ni du commerce, ni des PME. Donc ça, il faut absolument qu'il y ait un ministre du commerce. C'est trop important dans l'économie française.
Est-ce que on voit bien même au sein de la fédération, de votre fédération, donc de la distribution, du commerce et de la distribution, il y a des positions très différentes, voire divergentes, et avec votre modèle de la grande distribution, on voit qu'il a été quand même assez mis à mal. On a vu la chute de Casino qui finalement arrive à survivre. Et encore, je ne sais pas, vous me direz peut-être ce que vous en pensez, grâce à des Monoprix par exemple. Il y a Auchan qui est très fragilisé, Carrefour qui change aussi un peu de modèle. Comment est-ce que vous analysez ça? Est-ce que la grande distribution est fragile en ce moment?
Alors, attention, vous avez dit plusieurs choses. La fédération, déjà, ce qui est important, on est tous unis aujourd'hui sous la bannière de la fédération. À part Lidl, on est tous présents. Bien sûr qu'on est concurrents et qu'on le reste et qu'on se bagarre tous les jours. Mais sur les grands sujets qui nous concernent tous, on sait aujourd'hui s'unir et se battre ensemble. Et c'est la grande leçon, on va dire, de la défaite de la négociation sur la loi Descrozaille qui nous a conduit à ça. On est tous ensemble et tous unis. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, sur un marché qui est difficile, pourquoi le marché est difficile? Ce marché a fait moins 1,6% en volume au premier semestre 2024. Sur ce marché qui est difficile, tout le monde ne se porte pas mal. Et donc, les trois indépendants, et particulièrement notre coopérative, se portent bien. Donc, oui, le marché peut être difficile, mais sur tout marché, il y a des acteurs qui se portent bien parce qu'ils font le job, parce qu'ils écoutent les clients, parce qu'ils investissent, parce qu'ils restent connectés au terrain et à leurs clients. Et ceux qui ont parfois plus de mal, ce sont des gens, notamment, qui se sont éloignés du prix, parce qu'on a dit tout à l'heure, première préoccupation,
oui,
pouvoir d'achat
en train de...
et
oui,
des investissements.
Okay. Donc là, on voit Michel-Edouard Leclerc, enfin le centre Leclerc, ça fonctionne. Système U, ça fonctionne. Ouais. Vous avez connu un très bon premier semestre, je crois.
Très bon premier semestre.
Très bon premier semestre, vous nous le confirmez. Merci de l'info. Et en même temps, de l'autre côté, vous avez, donc je le disais, Casino, Auchan, et Carrefour, où c'est beaucoup plus difficile.
Absolument, mais vous avez raison.
Donc vous en déduisez quoi? On se retrouve dans un an, qu'est-ce qui se passe?
Non, il y a cette dichotomie. Maintenant, il y a une reprise.
Le modèle indépendant qui est...
Oui, le modèle indépendant est gagnant. 400 magasins ont été repris, soit par Intermarché, soit par Auchan, soit un peu par Carrefour. Il faut voir comment tout ça se stabilise. Ma conviction, c'est que dans quelques temps, il y aura un deuxième, peut-être un troisième tour. C'est-à-dire qu'il y a des magasins qui vont être revendus. Ils ne vont pas tous performer du premier coup tout de suite, etc. Et peut-être qu'à gauche à droite, il y a des éponges qui vont être jetées et je pense qu'il y aura des magasins à racheter. Et là, on analysera et on regardera et on fera des choses. Mais nous n'avons pas non plus rien fait, puisque je vous rappelle que le plus grand master franchisé d'Auchan, le groupe familial Chiver d'Avallon, 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, nous rejoint en 2025. Le groupe Migros France, des gros magasins au bord de la frontière suisse, aujourd'hui à l'enseigne Migros, deviendront Hyper U et Super U au 1er janvier prochain. Donc on agit, nous aussi, pour bouger sur le marché.
En même temps, vous avez vu les difficultés sociales que rencontre Alexandre Bompard à la tête de Carrefour, justement, parce que en fait, il veut suivre un peu ce modèle des indépendants, il veut franchiser des Carrefour, et que les salariés disent non, parce qu'à ce moment-là, on ne bénéficie plus des mêmes... du même régime social qu'avant. Donc ça veut dire que votre système est beaucoup plus dur socialement que les autres, qu'un modèle centralisé.
Mais ça n'a rien à voir. En fait, la location-gérance qui est pratiquée, c'est une espèce de Canada Dry de la vraie coopération et de la vraie indépendance. Nous, si vous voulez, nos patrons sont vraiment indépendants de A à Z, propriétaires de tout, de leur immobilier, de leur fonds de commerce, etc. Ouais, Carrefour s'inspire de ce modèle.
Fait du Canada Dry. Je vous reprends votre expression. Carrefour fait du Canada Dry.
C'est du Canada Dry de l'indépendance, absolument. D'accord. Et donc, si vous voulez, tant que les conditions sont pas 100% les mêmes que les nôtres, ça ne peut pas fonctionner de la même façon. Et il y a des insatisfactions qui sont exprimées. Mais ça, je suis pas dans les détails.
Juste quand même. Les centres Leclerc qui ont eu la plus grosse amende, alors c'est en première instance, parce que pour non-respect 38 millions d'euros, pour non-respect de date butoir de négociation commerciale.
J'ai vu ça.
Centrale d'achat Eurelec, européenne. Ça vous inspire quoi ?
Ça nous inspire que nous sommes aussi, nous, membres d'une centrale européenne. Et des trois centrales européennes qui concernent le marché français, nous sommes la seule qui a repris les éléments de la loi française au niveau européen. Et nous nous sommes engagés, et c'est écrit et c'est signé, à respecter la date butoir. Nous avons été contrôlés derrière. À l'heure où je vous parle, nous n'avons pas été sanctionnés. Donc ça veut dire qu'on a respecté la loi française, y compris au niveau européen. Et c'est ce qu'on voulait chez U par rapport au monde agricole.
Juste encore deux questions, même s'il nous reste 3 minutes. Est-ce que la base de tout ça, toutes les difficultés ne viennent pas d'un point ? C'est un problème de concurrence. C'est du reste que soulevait Arnaud Rousseau, le président de la FNSA des agriculteurs. Vous prenez le point de départ, 400 000 exploitations agricoles, du reste il y en avait 4 millions il n'y a encore pas si longtemps. 30 000 TPE, TPI, PME, PMI, donc à l'industrie agroalimentaire, puis vous arrivez en bout de chaîne, il y a 3 centrales européennes, il y a 5 centrales d'achat en tout. Donc on voit bien que même si tout ne dépend pas de ces centrales d'achat, il y a un vrai problème de concurrence. Alors, donc il faut casser ce modèle des centrales d'achat.
Mais pas du tout.
Bah si.
Mais non. Pourquoi il faut pas le casser ? Les prix en France sont 6,5% plus chers que les prix alimentaires en moyenne en Europe. Mmh. C'est pas moi qui dis, c'est 60 millions de consommateurs du mois de juin. Donc les centrales européennes, elles servent aussi à quoi ? Uniquement en face des 40 gros industriels, à aller chercher aussi du pouvoir d'achat pour les Français et faire en sorte que le prix qui est vraiment pas cher, par exemple en Allemagne, on retrouve le même en France. Et oui. Je peux vous dire, mon magasin est au bord de la frontière allemande, j'en sais quelque chose. Oui. Donc c'est aussi pour du pouvoir d'achat. Ça ne concerne pas les petites entreprises, ça concerne des mastodontes
dont
nous savons aujourd'hui, puisqu'on a leurs résultats, qu'elles ont un peu quand même profiter de cette période inflationniste pour reconstituer leurs marges et leurs résultats. On le sait, on a les résultats sous les yeux et vous les commentez ici aussi. Ouais,
ça se fait un peu sur le dos de l'agriculture française aussi parfois.
Mais c'est pour ça qu'il y a une loi qu'on respecte, y compris dans notre centrale européenne. La date butoir, le respect des matières premières agricoles, etc. Donc c'est possible de faire différemment.
Allez, on va finir sur une touche positive, même si c'est à consommer avec modération. Top départ des foires au vin, c'est toujours au mois de septembre, toujours un grand moment, un grand rendez-vous.
Tout à fait.
En plus, pour vous, c'est très important, les foires au vin.
Ah, je peux vous donner un chiffre. Je peux vous donner un chiffre. Sur 15 jours, ça représente 7% de notre activité vin de l'année. C'est quand même spectaculaire.
Ah oui.
On a 650 produits proposés à nos clients cette année. Et je peux vous dire que dans ces 650, il y en a 45 qui sont vraiment des pépites dont il faut aller profiter à tous les prix. Et je pense notamment à un crémant d'Alsace millésimé 2020, 8,90 €.
Ça sent le favoritisme.
Ah, c'est une offre à ne pas rater.
Et ça, c'est à partir de quand chez vous ?
Et c'est à partir de la dernière semaine du mois de septembre chez nous. On arrive toujours en dernier. On attend un peu que la paye du mois de septembre arrive et ça booste toujours nos foires au vin.
Ouais. Vous pensez que la date du butoir vont pouvoir vraiment commencer mi-novembre ?
De toute façon, les négociations commenceront. Maintenant, sous quel régime ? Probablement celui de l'année précédente.
Ouais, donc ça va commencer, mais voilà, sans les avancées qui ont été trouvées. Merci beaucoup.
Merci à vous, Edith Chevrillon.
Merci d'être venu nous voir, président des coopératives, de la coopérative U. On a compris le message. Merci, puis bonne foire au vin.
Good Evening Business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h34, ils sont là, nos experts, les experts BFM. Première partie, 18h30, 19h, pour décrypter ensemble l'actualité, bien sûr. Emmanuel Le Chypre est avec nous, il est de retour. Bonsoir, Emmanuel.
Bonsoir à tous.
Et bienvenue, Benaouda Abdedaïm, qui rejoint notre team du soir. Bonsoir, Benaouda. Bonsoir. Bienvenue. On parlera de l'Allemagne, bien sûr, la percée de l'extrême droite avec vous dans un instant. Caroline Morisseau, bonsoir, Caroline.
Bonsoir.
Pour nous parler dans un instant de Thierry Baudet, l'homme dont on parle ce soir précisément. Et puis bien sûr Edwige qui reste avec nous. Bonsoir Edwige.
Bonsoir.
Pour redire un mot de...
Il y a un micro, ça va mieux.
Ouais. Ce que nous disait, oui, le micro marche. De Dominique Schellcher qui est venu nous voir en ce lundi de rentrée, président de la coopérative U, qui nous dit, oui, mine de rien, les prix commencent à baisser, la consommation repart doucement. Est-ce qu'il y a unanimité entre les acteurs de la grande distrib sur ce sujet? Le patron Lidl est un peu plus pessimiste l'autre soir.
Oui, mais en tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait une étude qu'il venait de recevoir avant de rentrer en studio, qui montre quand même que la confiance des consommateurs, elle est là, et notamment sur le fait du retour du pouvoir d'achat, de leur pouvoir d'achat. Et ça se traduit assez dans les prix. Il l'a reconnu, alors notamment sur les prix de l'hygiène, les prix de la beauté. Donc finalement, il a reconnu la loi de Crozaille, qui était absolument la bête noire de la grande distribution, finalement a servi à quelque chose. Et donc, de ce point de vue-là, il dit que nous, on a fait un mois d'août formidable et que la rentrée, et notamment la rentrée scolaire, bien sûr, se passe très bien.
On s'en est un peu plus mitigé sur l'alimentation quand même.
Sur l'alimentation, mais en même temps, c'est-à-dire qu'il y a... Emmanuel Le Chypre en a parlé, c'est-à-dire qu'il y a cette très, très mauvaise récolte de blé avec l'impact que ça peut avoir. Il y a quand même des incertitudes. Puis le fait de ne pas avoir ces négociations sous le cadre nouveau cadre Egalim 4, ça bloque un peu tout le monde, y compris sur la grande distribution, sur les prix.
La désinflation.
Mais quand même assez confiant.
Oui, la désinflation est là, mais enfin, ça ne suffit pas évidemment à relancer la consommation d'un seul coup, Emmanuel. Évidemment, ça.
Il y a deux sujets. Le premier, c'est que, vous savez, en matière de consommation, souvent, quand vous prenez des habitudes, vous avez du mal à en changer.
Alors, je pense que vous n'avez pas un problème de micro. On va peut-être vous orienter vers l'autre micro.
Il y a plein de fils partout. Prenez l'autre, pas dans quel point poser.
C'est la rentrée.
On prend les deux.
Exactement.
Ce qu'on voit très bien, c'est que les habitudes qui ont été prises ne vont pas changer. Cas très intéressant, par exemple, il y a eu massivement un report sur les produits de marques distributeurs. Oui. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas de retour vers les marques. Le cas le plus emblématique, c'est Bonduel qui décide d'arrêter de faire des salades en sachet parce que les Français se sont reportés vers les marques distributeurs et ne reviennent pas vers les marques. Et puis la deuxième chose, c'est que ce qu'on a vu quand même dans les chiffres qui sont sortis la semaine dernière, c'est quand même qu'il n'y a pas beaucoup plus de produits dans le caddie des Français et que ils sont quand même très prudents. Et ce qu'on voit, c'est que
ils ont bien conscience
que la vague inflationniste est passée, et on a eu les chiffres de vendredi pour le confirmer, ils ont conscience, ça c'est ce qu'ils répondent dans l'enquête faite par l'INSEE, ils ont conscience que leur pouvoir d'achat va s'améliorer, et en même temps, par rapport à la moyenne historique, il y en a deux fois plus qui considèrent que ça n'est pas le moment de faire des achats importants. Et là, c'est quand même le contexte politique qui joue majoritairement, parce que vous regardez l'effondrement des ventes d'automobiles au mois d'août, quand vous regardez la consommation en juillet, c'est pas terrible, et surtout quand vous regardez l'épargne cet été... On est sur des rythmes de collecte de tous les livrets qui est bien supérieur à la moyenne des 10 dernières années. Même ceux qui ont de l'argent ne veulent pas trop dépenser.
Mais ce que disait Dominique Schellcher, c'est que quand même, il a observé un effet Jeux Olympiques. Donc il y a une espèce d'euphorie qui s'est un peu... que tout le monde s'est senti concerné par ces Jeux Olympiques. Et du coup, ça s'est traduit dans... la consommation.
Mais ça, Edwige, c'est des arbitrages de consommation. C'est pas plus de consommation. Les Jeux Olympiques, ça ne vous donne pas de l'argent. Ça ne donne pas de l'argent. Donc c'est des arbitrages de consommation. Donc je pense que ça lui a profité, effectivement.
Non, mais c'est ça. Je reste dans ce domaine-là.
Un mot rapidement sur les négociations commerciales, parce que ça va arriver très très vite. Ça va arriver à l'automne. Il y a cette proposition dans l'air de faire discuter en amont industriels et agriculteurs qui séduit certes la grande distrib, mais qui ne séduit pas les industriels.
C'est-à-dire d'un côté,
deux fois.
Une première fois l'agriculteur qui discute avec les industriels, une fois qu'ils sont mis d'accord sur un prix, et bien les industriels vont négocier avec la grande distribution. Donc les deux extrêmes sont complètement d'accord. Les industriels, eux, pas du tout.
Mais ils ont leurs arguments pour ça. Ils disent on peut pas appliquer ça à chaque filière, chaque secteur.
Mais en même temps les agriculteurs disent c'est quand même très compliqué d'avoir des prix qui sont fixés par avance avant même même de discuter avant avec l'agriculture, enfin les agriculteurs en l'occurrence.
Bon.
C'est ça le. Mais de toute manière, il y a un gros problème, c'est que là, il n'y a personne à Bercy, il n'y a pas de ministre de l'Agriculture, il n'y a pas de ministre du Commerce, il n'y a personne. Donc,
il veut un ministre du Commerce, forcément... il l'a dit. Hein, il l'a dit hein.
Se passer comme s'il n'y avait pas eu la colère des agriculteurs.
Avec moins d'inflation, le sujet sera quand même moins crucial.
C'est toujours quelque chose de tendu, les négociations commerciales.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça a été très visible. Et ça a été hyper tendu et sous les feux des projecteurs en période d'inflation.
Oui.
Là, maintenant que ça se détend quand même sur l'évolution des prix, ce sera sans doute moins.
L'agriculture est quand même. On sent bien que la colère. Beaucoup,
Les problèmes sont pareils.
Regronde, si vous me permettez cette expression.
Petit pic sur Carrefour à la fin quand même, en 10 secondes. Oui, c'était. Oui, alors
c'est. Parce qu'en fait, il y a deux modèles. Il y a le modèle la grande distribution et les coopératives, Système U ou les indépendants comme Intermarché. Et puis de l'autre côté, vous avez Auchan, Carrefour, qui sont des modèles centralisés, des entreprises classiques. Et ce modèle-là, il va en marche beaucoup moins bien. Donc Carrefour a décidé de franchiser, et de plus en plus, à un rythme assez accéléré, des magasins. Et c'est là où Dominique Schécher dit non, c'est le Canada Dry d'un modèle des indépendants. Voilà.
Cette bonne guerre, voilà pour Thierry, Dominique Schécher qui était avec vous il y a quelques instants. Et une pensée pour toutes celles et ceux qui sont dans les super, les hypermarchés en ce moment, soit pour le plein de rentrée, soit pour les fournisseurs scolaires. Un grand rendez-vous de la rentrée, évidemment. Bien, 18h40, Caroline Morisseau avec nous pour parler alors de l'homme dont on parle beaucoup ce soir, Thierry Baudet, qui est donc le candidat à Matignon, dont le nom a émergé au milieu de journée à peu près.
Oui, au début de matinée plutôt.
Thierry Baudet, actuel président du Conseil économique, social et environnemental. Pardon de poser la question, qui est Thierry Baudet, Caroline ?
C'est vrai que peu de gens le connaissent, il n'est pas très connu du grand public. Thierry Baudet, il a 62 ans, à l'origine c'est un instituteur, il a eu une très belle carrière dans le secteur mutualiste, où là pour le coup il est bien connu, parce qu'il a été patron de la MGEN, la Mutuelle de l'Éducation Nationale, puis président de la Mutualité Française, qui regroupe toute la fonction publique. À ses postes, il s'est forgé une solide réputation, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui recherche en permanence le compromis, le consensus, et qui a réussi à faire bouger les lignes dans le monde très figé du secteur mutualiste, nous dit l'un de ceux qui a travaillé à ses côtés. Une réputation qui lui a permis d'être élu du coup à la tête du Conseil économique et social il y a 3 ans. Alors son profil présente plusieurs avantages pour Emmanuel Macron en tout cas. C'est quelqu'un qui n'a pas d'étiquette politique, qui est relativement incontestable à gauche comme à droite, et donc ça pourrait permettre d'éviter une motion de censure d'emblée. Autre atout, même s'il n'a pas exercé de fonction politique, c'est quand même quelqu'un qui a aguerri aux négociations avec les partenaires sociaux, qui les connaît très bien, ce qui pourrait quand même faciliter les choses s'il faut les faire revenir autour de la table sur des sujets aussi clivants que le SMIC, les salaires, la réforme des retraites. Et puis enfin, c'est pas un excité, nous dit l'un de ceux qu'il connaît bien, c'est quelqu'un qui est plutôt discret, calme, et donc ça pourrait permettre d'éviter de faire de l'ombre aussi à Emmanuel Macron.
Bien, profil plus technique que politique, issu de la société civile. Est-ce que vous achetez le profil Thierry Baudet à Matignon?
Je l'avais reçu lors de cette colloque qu'il avait organisé avec le Crédit Mutuel sur le dividende sociétal.
Fin juin.
Fin juin, c'est quelqu'un qui effectivement n'aime pas tellement les feux de la rampe. C'est quelqu'un issu de la société civile, vous l'avez rappelé, il est d'aucun camp, ni gauche ni droite, serait incapable de lui mettre une étiquette. Et c'est quelqu'un qui est en plus relativement soutenu par Laurent Berger. Donc ça peut compter aussi dans le cadre, comme l'a souligné Caroline, il y a beaucoup de négociations qui pourraient se dérouler, des négociations difficiles, que ce soit sur les retraites, sur les salaires, sur le SMIC à 1600 euros ou pas. C'est quelqu'un qui connaît par cœur toutes ces négociations salariales et syndicales.
Il y a une histoire, il y a l'instituteur, il y a le patron du CESE qu'il est, qui fait cohabiter associations, syndicats, patronat. Est-ce que vous achetez, est-ce que vous y croyez, vous, à ce profil, Emmanuel? On parle de tout ça, le conditionnel, bien sûr.
La question, c'est pas est-ce que j'y crois, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Et effectivement, alors d'abord, on voit bien qu'il a ses domaines de prédilection, donc c'est tout ce qui tourne autour des sujets sociaux, un peu économiques, beaucoup de réseaux, donc tout ce qui va être autour de la cohésion sociale, certainement, et comme il ne connaît rien au reste, ça veut dire qu'il va y avoir clairement un partage des pouvoirs entre le Premier ministre et Emmanuel Macron, donc c'est une cohabitation douce qui s'annonce, plutôt un partage des rôles, et là pour le coup on est vraiment dans le Premier ministre collaborateur, avec effectivement ce partage des rôles qui qui, alors pour le coup, Edwige dit il a pas de couleur politique. Bon, moi je veux bien, mais quand vous avez été, enfin je veux dire que vous voyez très bien
la MGN.
Non, mais bon, d'accord. Donc c'est un profil gauche libéral, gauche raisonnable.
Comme ça que vous le voyez, comme ça que vous le classez.
Bah plutôt.
Non, mais il est pas LFI, il est pas.
Non, bien sûr, mais
officiellement il a pas d'étiquette politique.
Officiellement il a pas d'étiquette politique, mais on voit bien que c'est à travers tout ce qu'il a fait, etc. C'est pour le coup une sensibilité assez proche de ce qu'on pourrait qualifier un rocardien, un peu. Voilà, c'est-à-dire cette gauche qui sait que
faut gérer, etc. Il ne prend pas sa carte de parti.
Après, est-ce que. Alors, il peut avoir un impact sur le climat social, est-ce qu'il peut en avoir un impact sur les finances publiques, la réforme de l'État, etc. Je suis plus sceptique sur le sujet.
C'est avec cette urgence budgétaire. Oui, Edwige, je voulais ajouter
un mot. Non, de ce point de vue-là, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des champs entiers qui resteront dans la main d'Emmanuel Macron ou alors d'un gouvernement. C'est pas quelqu'un qui a une personnalité très marquée, très forte. Donc, c'est pas tellement lui qu'on va voir sur le devant de la scène.
Qu'est-ce qui importe pour vous plus, la personnalité ou le programme? Écoutez, tiens, je vous fais écouter quelques secondes. Geoffroy Roux de Bézieux, l'ancien patron du MEDEF, qui était ce matin sur les médias, qui disait « Moi, c'est plus le programme que l'homme ou la femme qui m'intéresse ». Écoutez ce qu'il disait.
Mais on avait un programme qui mettait l'économie par terre, l'économie française par terre, assez rapidement. C'est d'ailleurs le même programme que la NUP ou que Jean-Luc Mélenchon en 2022. Donc c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant, Guillaume Tabar l'a très bien expliqué, on a une situation politique qui est compliquée. Alors, moi je dis pas il faut un gouvernement tout de suite, parce qu'il faut mieux un gouvernement qui tienne la route dans quelques semaines que ou un gouvernement qui est renversé rapidement. Simplement, on voit bien qu'il y a des visions de l'économie qui s'opposent. Si je reste sur le couloir économique, plus simple à comprendre, c'est les retraites. Soit on abroge la réforme, ce que demandent deux groupes parlementaires sur trois, et on se retrouve avec un déficit de plus de 17 milliards par an. Soit on peut éventuellement la modifier à la marge, mais on la garde. Et on voit bien que là-dessus, c'est binaire. Il n'y a pas de coalition possible. Donc, pour les patrons, on a besoin de savoir quelle est la ligne économique. Et on parle beaucoup de casting, Bernard ou Xavier ou Michel ou Lucie. C'est quel programme? C'est ça la question.
Ça sera peut-être Thierry pour l'occasion. Voilà. Est-ce que plus que l'homme, la femme providentielle, vous êtes à la recherche du programme providentiel auquel Emmanuel...
Mais pas du tout. Mais personne ne sera capable de présenter un programme. Le programme, c'est pas ce qui est souhaitable. C'est ce qui sera possible compte tenu de la majorité qui sera possible de bâtir. Et à partir de là, il y a quelques thèmes dont on peut se dire que il est possible d'obtenir sans doute des consensus. Et c'est ces thèmes-là qui seront traités. Il y a des thèmes qui sont urgents sur lesquels on n'aura pas de réponse parce qu'il n'y aura pas de majorité. Donc non, il n'y aura pas de programme.
Les deux sujets clés, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les retraites et comme le salaire ou le SMIC à 1600 euros. De ce point de vue-là, ça, il pourra s'en occuper. C'est-à-dire, on aura un programme en creux, c'est-à-dire, c'est comment faire pour éviter ce que veut LFI. Et donc, à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour trouver un consensus avec les syndicats? Thierry Baudet pourra sans doute trouver la parade, parce que c'est vraiment une parade qu'il faut trouver.
Bon, il est sans doute armé pour l'urgence sociale, il est moins armé pour l'urgence budgétaire.
Est-ce qu'il est armé pour l'enfer de Matignon d'une manière générale? Je vous pose la question parce que c'est quand même particulier.
Il a quand même un bon parcours et puis il est quand même habitué à négocier.
Bon, le nom en suspens ce soir de Thierry Baudet, l'actuel président du CESE, bien sûr, qui pourrait être nommé à Matignon dans les prochaines heures. On met tout ça au conditionnel. Et on suit ça sur BFM Business. En tout cas, regardez, quel que soit le nom du Premier ministre, ceux en tout cas qui regardent de très très près le programme, ce sont les patrons. Les Échos nous disaient aujourd'hui que le MEDEF, je cite, que le patronat voulait intensifier ses relations avec les députés avant le budget 2025. Et en fait, ce que nous expliquent les Échos, c'est que le MEDEF a demandé à l'échelle des fédérations locales, il y en a 119, que partout le représentant de la fédération locale entre en contact avec le député sur le terrain, parce que beaucoup de ces députés font leur premier mandat et ne sont pas très au fait des questions macroéconomiques.
C'est ce qu'a dit, en tout cas, c'est le discours d'ouverture de Patrick Martin, le président du MEDEF, à la REF, aux rencontres des économiques des entrepreneurs de France. C'est ça qui est le message qu'il a voulu envoyer, c'est-à-dire c'est d'envoyer ses bataillons pour préparer les politiques, pour aguerrir les politiques sur le plan économique.
C'est surtout que depuis 2015, le MEDEF, il n'avait rien à faire. Il avait le vent dans le dos, puisqu'il avait des présidents et des gouvernements.
Geoffroy Roux-de-Bézieux.
Il n'a pas eu grand-chose à faire. Il s'est laissé porter par le vent, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Donc voilà, et il faut que le MEDEF retrouve un combat politique, parce qu'il va avoir des idées à défendre, et là, ce sera moins facile qu'au cours des 10 dernières années.
Et la CPME a enclenché les grandes manœuvres aussi sur le terrain, évidemment, pour faire un travail de lobbying auprès des députés. 18h48, l'Allemagne, donc Ben Aouda, on en vient avec vous, à l'Allemagne qui a donc vécu hier un événement historique, puisque les chiffres sont désormais officiels. L'AFD, qui a à peine, je crois, 10 ans d'existence, sa partie qui est née en 2015, l'AFD a réalisé une percée dans deux régions de l'ex-RDA. Il est arrivé en tête en Thuringe et talonne la CDU en Saxe. Parti anti-immigrant, pro-russe, eurosceptique, climato-sceptique, qui a déjà eu beaucoup, beaucoup de réactions, Ben Aouda. Aujourd'hui en Allemagne, il y a ce qui s'est passé hier, évidemment.
Il y a ceux qui veulent se rassurer en se disant la Thuringe plus la Saxe, c'est 7% de la population allemande, donc il n'y a pas le feu au lac. Au demeurant, l'AFD, ce parti que vous avez décrit en quelques à grands traits, et son chef de file dans Thuringe, qui est une personnalité particulièrement marquée, qui s'appelle Björn Höcke, qui en 2019 a fait l'objet d'un jugement d'un tribunal administratif qui estimait que ce responsable politique pouvait être qualifié de fasciste de par une base factuelle vérifiable, je cite, est arrivé en tête largement avec un tiers des suffrages. S'ajoute à cela une percée particulièrement notable d'un nouveau parti de gauche radicale, le BSW, qui a cette particularité d'être très à gauche en matière économique et sociale et très à droite en matière de société. Et pour être clair, très anti-immigration plaidant un rapprochement avec la Russie. À eux deux, ils sont à pratiquement 50% des suffrages dans ce land de Thuringe. Ceci étant, on se rend compte que ce sont les conservateurs, les chrétiens démocrates, qui ont le vent en poupe dans ces deux scrutins. Et ils apparaissent bel et bien dans un horizon à un an comme les prochains potentiel gouvernant de l'Allemagne.
Puisque les élections législatives auront lieu dans un an, ça sera en septembre 2025. Est-ce qu'il n'y a pas quand même l'idée, au sortir notamment de ce qui s'est joué hier, que peut-être dans certains lenders d'Allemagne de l'Est, ex-Allemagne de l'Est, on pourrait voir fuir les investisseurs, on pourrait voir fuir les entreprises, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet? Vous avez vu les annonces de Volkswagen qui dit aujourd'hui, est-ce un hasard ou une coïncidence? Nous pourrions fermer des sites en Allemagne, désormais.
C'est très marqué. Ce matin, on était encore à évaluer les suffrages pour les uns et pour les autres. Et un certain nombre de chefs d'entreprise, d'économistes, de médias expliquent que ça va faire fuir les investisseurs étrangers dans ces landers, ça va faire fuir la main-d'œuvre qualifiée. De ce point de vue-là, il y a l'idée que le rattrapage qui a eu lieu proportionnellement dans ces landers de l'Est, qui représente 16% du produit intérieur brut allemand contemporain, risque d'être mis à mal. Vous avez une quarantaine d'ETI, des entreprises familiales allemandes qui ont dit on va effrayer aussi bien les travailleurs qualifiés que les investisseurs étrangers. Vous avez une personnalité particulièrement intéressante qui est la fondateur de Tesvolt. Tesvolt, c'est dans le Saxe-Anhalt, fournisseur d'équipements extrêmement puissant pour le stockage d'électricité qui dit on va assister à une désindustrialisation de l'Est du fait de cette percée de l'AFD. Vous avez aussi le directeur de la stratégie de Decabank à Francfort qui pense que ces résultats vont agir comme un repoussoir sur les investisseurs étrangers. Donc il y a vraiment une crainte qu'à partir de ces résultats, vus de loin, sans aller dans les nuances politiques intérieures, on se dise on va aller ailleurs que dans ces landers.
Il y a effectivement beaucoup de chefs d'entreprise, compris les devants, qu'on fait ce qu'on va appeler de la pédagogie. Je pense au patron de la Deutsche Bank qui lui a dit très en amont, tout sauf l'AFD. Voilà.
Juste en une phrase, ça veut quand même dire que la réunification allemande, elle n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'à l'Est, c'est quand même des pays qui sont beaucoup, beaucoup plus pauvres qu'à l'Ouest, et que de ce point de vue-là, c'est l'échec de la réunification allemande.
D'un certain point de vue, mais après, il n'y a plus que deux points d'écart dans le taux de chômage. Il n'y a en termes de croissance économique, les landers de l'Est vont plus vite que les landers de l'Ouest, mais ils ont un problème majeur, c'est une dépopulation, une perte de population active très importante.
Et puis la locomotive allemande dans son ensemble, l'URSS est en panne. Hein. On voit bien que le modèle allemand, qui était au départ, c'était comme la lanterne, c'était devenu la lanterne rouge, alors que c'était la locomotive de l'Union européenne, et que là, au contraire, l'Allemagne, elle connaît une pénurie, notamment industrielle, et de ce point de vue-là, forcément, l'Est en pâtit beaucoup plus que l'Ouest.
Oui, Benahou, bien, alors, de ce point de vue-là, il y a aussi l'idée que si les chrétiens démocrates structurent une grande coalition d'ici un an, l'AFD et le BSW seront renvoyés aux marges et on pourra assister de nouveau à un programme qui permette de relancer la machine allemande.
Emmanuel, sur un mot sur la situation en Allemagne.
Bah, je pense que ça dépasse largement les tendances politiques qui travaillent l'Allemagne. Dépasse largement le simple cadre de l'Allemagne. On entend les discours qu'on entendait au moment du Brexit, par exemple. Hein, si vous votez pour le Brexit, ça va être une catastrophe économique, les usines vont partir, etc. Ça n'a pas empêché les Britanniques de voter le Brexit. La montée parallèle de l'extrême droite et l'extrême gauche, c'est une tendance qu'on voit dans énormément de pays d'Europe, alors pour tout un tas de raisons. Le sentiment de déclassement économique, la perte d'identité, le sentiment de perte d'identité culturelle, le sentiment d'être menacé par... une forme d'immigration, etc. Et ça, je crois que c'est toute l'Europe qui doit se saisir du problème.
Et ça porte bien au-delà des partis de droite radicale ou de gauche radicale. Le chef du FDP, le ministre des Finances fédérales, a dit que les gens en ont assez de la politique migratoire et d'asile et qu'il n'y a aucune interdiction maintenant de penser, selon lui. Donc, on voit que c'est un discours qui diffuse bien au-delà de ces extrêmes.
Voilà pour la situation en Allemagne. Merci beaucoup, Benahouda. 18h55, vu sur le web, pour terminer, allez, un petit peu plus léger. Le sujet qui va nous occuper pendant 2-3 minutes, c'est Anne-Catel Moussa qui est avec nous. Bonsoir Anne-Catel, bienvenue, rédactrice en chef du site bfmbusiness.com. Nous allons partir au sport d'hiver.
Oui.
Pour raconter quoi, Anne-Catel? Qu'une entreprise française est en train de construire au Kirghizistan un domaine skiable XXL. On l'appelle déjà le Courchevel Kirghiz, c'est ça,
Anne-Catel? Vous allez pouvoir vivre l'expérience Courchevel en plein cœur de l'Asie centrale. Alors, si on parle de...
10 fois moins cher qu'à Courchevel.
Voilà, oui, alors, je ne sais pas, je n'ai pas encore les tarifs. Mais en tout cas, si on parle de Courchevel Kirghiz, c'est vraiment parce que c'est réellement Courchevel qui a la manœuvre dans la création de cette toute nouvelle station de ski. Alors, on a eu Pascal de Tiersan, qui est président de la Société des Trois Vallées, qui exploite Courchevel, qui nous a raconté un peu l'histoire. Et on est en janvier 2023. On a le président kirghiz, Sadir Chaparov. Il a Courchevel pour skier et il demande à rencontrer l'exploitant. Et il va leur demander tout simplement de construire un Courchevel dans son pays. Voilà, tout simplement. Alors là, ça va très vite. Le gouvernement a identifié un site. On a 1600 hectares dans les montagnes qui ont été déjà verrouillés par l'État pour ce projet. Et à la manœuvre, on aura donc l'entreprise française qui va concevoir le domaine, qui va conseiller sur les travaux qui seront assurés par des entreprises locales. Et l'État, lui, a déjà décidé d'investir tout de même déjà 165 millions d'euros sur la table pour ce projet.
Et ça va ressembler à quoi alors concrètement?
Alors, ça va ressembler. Les travaux vont commencer en 2025, dès décembre 2026. Normalement, vous avez déjà 60 km de piste. Donc la première station va être construite. À terme, il y en aura 3. Et on doit avoir 200 km de ski, de piste, une trentaine de remontées mécaniques. Et donc, on est à peu près sur la taille d'une station comme la Plagne. Voilà, tout simplement. Selon les plans, le domaine comptera 7000 chambres. Alors, on est au milieu des montagnes enneigées. Vraiment, on a été voir. C'est très beau. On a des panoramas magnifiques qui n'ont pas à rougir devant les Alpes. Le but de l'État kirghiz, c'est vraiment d'attirer des touristes dans ces montagnes. Les locaux, mais ils visent aussi, bien sûr, les Russes, les Chinois, les Indiens qui ne sont pas si loin que ça. Il y a 2 aéroports déjà internationaux à 5 heures de route de cette future station.
Pas évident quand même, hein, pour s'y rendre.
Bah non, 2 aéroports.
Oui, 5 heures de route au Kyrgyzstan.
Ouais, Edwige, quand il faut aller à Davos, c'est pas très rigolo.
Bah, c'est plus facile, on prend un TGV, puis c'est bon. Hein.
Alors, une ligne de train pour relier la Chine aussi, qui est à l'étude.
Bon. Voilà. Et on parle environnement quand même un petit peu, accessoirement.
On peut parler environnement, parce que quand on regarde le site, il est vraiment préservé, magnifique, et on se dit une station de ski là, qui va se poser là. La Société des Trois-Vallées, elle défend son projet en disant qu'elle a déjà refusé d'autres pays comme ça qui l'avaient attiré, comme le Vietnam ou l'Arabie Saoudite. Et là, vraiment, elle dit non, là, on aura 80...
Il y a moins de neige.
On aura 80% de pistes, on n'aura même pas besoin de couper des arbres pour les créer. Oui. On a vraiment étudié la question. Et surtout, eux, ils justifient ça en disant on va essayer de maîtriser le foncier, l'État aura la main sur le foncier. Et donc, le but, c'est de ne pas créer un étalement de chalets qui sont vides quasiment toute l'année, comme c'est le cas dans nos stations.
Bon, c'est le vœu pieux en 2024, sans tout ça, on verra ce qu'il nous restera. C'est là-bas que nous irons skier dans 10-15 ans,
2026.
Mesdames,
Messieurs.
Ah, 2026.
2026.
Ah oui, c'est demain, quoi.
Oui, c'est demain. C'est là-bas que nous irons skier demain, quand il n'y aura plus de neige ou quasiment plus.
On n'ira plus à Davos, on ira
on n'aura pas les moyens surtout d'aller dans
et quand on n'aura plus les moyens d'aller skier, quand le ski sera vraiment devenu un produit mixte. C'est à lire sur bfmbusiness.com. Merci beaucoup Anne-Catel, merci de passer nous voir sur BFM Business. Merci beaucoup Emmanuel Benahouda, merci beaucoup Edwige. On se retrouve demain, 18h10, bien sûr, pour tout le monde.
François Omril. Le président de la CFE-CGC, intéressant de savoir ce qu'il pense. Si jamais c'est Thierry Baudelet qui devient Premier ministre, est-ce que ça lui fait plaisir ou pas? Et puis on parlera bien sûr de la rentrée, de la retraite et du SMIC à 1600 euros.
Ça en fait des sujets avec François Ombril demain 18h10. Merci beaucoup. 18h58, nous on repart dans un instant. Le journal et nos experts qui reviennent à 18h15. Bien sûr, on reparlera Thierry Baudelet, bien sûr, on reparlera de l'Allemagne. Et puis on parlera salaire, parce qu'on a des premiers chiffres qui nous laissent penser, plus que penser, que le NAO qui commence à l'automne sera encore haute en couleur cette année, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça jusqu'à 20h, évidemment. À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, il est un petit peu plus que 19h, la deuxième heure de Good Evening Business. Toujours en direct, bien sûr, dans l'actualité ce soir, la course à Matignon. Et donc ce nom qui se détache ce soir, celui de Thierry Baudelet, l'actuel président du CESE. On va bien sûr en reparler largement dans un instant. Puis on va en parler avec nos experts qui reviennent bien sûr dans un quart d'heure. Avec eux, on parlera bien sûr de cette percée de l'extrême droite en Allemagne hier qui pose beaucoup de questions. Et puis on parlera salaire, puisque vous savez que les fameux NAO vont redémarrer à l'automne prochain. Et on a des chiffres qui nous confirment déjà que ça s'annonce assez musclé, que ça sera haut en couleur, comme on dit. Nos experts dans un quart d'heure, qui seront-ils? Alexandre Malafaille pour le think tank Sinopia, le communicant Jackie Isabello et l'économiste atterré Frédéric Boccara. Voilà le programme. On est ensemble jusqu'à 20h. Bonne soirée.
Good evening business, le journal.
Donc, grande question, qui va s'installer à Matignon? Je vous le disais depuis quelques heures, le nom qui circule avec insistance, c'est celui de Thierry Baudelet. Bonsoir, Caroline Morisseau. C'est l'actuel président du CESE, mais qui est vraiment Thierry Baudelet, Caroline?
Thierry Baudelet, il a 62 ans. À l'origine, c'est un instituteur de formation. Alors, il est parfaitement inconnu du grand public, en effet, mais c'est quelqu'un qui a eu une belle carrière dans le secteur mutualiste. Il a été patron de la MGEN, la Mutuelle de l'Éducation Nationale, puis patron de la Mutualité Française, la puissante mutuelle qui regroupe tous les acteurs de la fonction publique. À ses postes, il s'est forgé une solide réputation. Il est très à l'écoute, nous dit-on. Il cherche tout le temps le consensus. Il a réussi à faire bouger les lignes, nous dit-on, dans le monde très figé du secteur mutualiste. Et c'est ce qui lui a valu d'être élu il y a 3 ans au Conseil économique et social. Alors, son profil présente plusieurs avantages. C'est quelqu'un qui n'a pas d'étiquette politique, qui est difficilement contestable à gauche comme à droite, ce qui pourrait, je dis bien pourrait, au conditionnel, permettre d'emblée une motion de censure. Autre atout, même s'il n'a pas exercé de fonction politique, c'est quelqu'un qui a aguerri aux négociations, qui connaît très bien les partenaires sociaux, les syndicats comme le patronat, ce qui pourrait permettre de faciliter les choses s'il faut les remettre autour de la table sur des sujets aussi clivants comme le SMIC ou la réforme des retraites. Et puis, autre avantage, c'est pas un excité, nous dit-on, c'est quelqu'un qui est plutôt discret, réservé. En clair, pas de quoi faire de l'ombre à Emmanuel Macron, ce qui est aussi un avantage sans doute pour sa nomination.
On va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Caroline. Thierry Baudelet peut-il être l'homme d'une certaine forme de consensus qui peut échapper à la censure? On en reparle bien sûr avec nos experts à partir de 19h15 sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, il y a donc aussi toutes ces questions en Allemagne après les gros scores réalisés hier soir par l'AFD, le parti d'extrême droite en Saxe et en Thuringe. C'est un gros désaveu pour le chancelier Olaf Scholz qui va remettre son mandat en jeu dans seulement 1 an. Régine Ralech.
C'est une première depuis la Seconde Guerre mondiale. L'AFD devient le premier parti d'extrême droite à remporter un scrutin régional en Allemagne. Des résultats dont se félicite Tino Chrupalla, coprésident du parti.
Nos résultats sont incroyables en Thuringe. Dans la Saxe, ils sont très bons. Les électeurs ont fait un choix clair. Ils veulent que l'AFD gouverne. Ils veulent que l'AFD ait des responsabilités. C'est la volonté du peuple.
Malgré ces résultats historiques, peu probable que le parti gouverne la région. Aucune des autres formations politiques ne souhaitent faire alliance avec eux. Pour le candidat CDU aux élections de Thuringe, la montée des extrêmes incombe au gouvernement Scholz.
Natürlich sehen wir auch die
Bien sûr, nous constatons que l'AFD est en train de gagner des voix et c'est aussi le résultat de la mauvaise politique de Berlin. Et nous voulons contrer cela ici en Thuringe avec de bonnes politiques.
En perte de vitesse, l'exécutif paie le mécontentement des Allemands en partie nourri par l'inflation et l'immigration. Prochain test pour la coalition, l'élection régionale qui se tiendra le 22 septembre dans le Brandebourg.
Régine Ralech, on parlera bien sûr avec nos experts, ça sera un petit peu après 19h30, de la situation en Allemagne et de ces chiffres absolument historiques pour l'extrême droite. Dans l'actualité des entreprises ce soir, cette information de l'agence France Presse qui affirme, document à l'appui, que Volkswagen envisage très sérieusement de fermer des sites en Allemagne. L'Allemagne perd de plus en plus de terrain en termes de compétitivité. Voilà notamment ce qu'écrit le patron de Volkswagen, Oliver Blum, dans ce document interne donc a pu se procurer apparemment l'agence France Presse. Côté entreprise, toujours déception chez Sanofi. Le groupe a annoncé ce matin que les essais cliniques concernant son nouveau médicament contre la sclérose en plaques, que ces essais malheureusement n'avaient pas atteint les résultats escomptés. Hélène Cornet.
Tout l'enjeu de Sanofi est de conserver son avance dans le domaine de l'immunologie et notamment des traitements contre la sclérose en plaques. L'Aubagio, son médicament actuellement commercialisé, a perdu son brevet en septembre dernier, il y a tout juste un an, et la concurrence des génériques a eu un impact immédiat sur le chiffre d'affaires. Les ventes ont baissé de 74% au quatrième trimestre. Sauf que les derniers essais ne sont pas aussi satisfaisants qu'espérés. Pour la forme la plus courante de la maladie, son médicament expérimental ne fait pas mieux que l'actuel. En revanche, pour une autre forme de la sclérose en plaques qui concerne 20% des patients, les tests ont effectivement montré un ralentissement de la progression du handicap. C'est ce succès que les marchés veulent retenir. Sachant que tous les concurrents, Novartis, Roche, Merck, GSK, qui planchent actuellement sur le même type de traitement, s'y cassent également les dents. Sanofi vise une commercialisation de son médicament fin 2025.
Hélène Cornet avec nous sur BFM Business. Côté entreprise toujours, encore des inquiétudes chez Atos parce que le groupe nous a dit ce matin qu'il revoyait à la baisse ses prévisions de résultats pour les deux prochaines années. Vous savez qu'Atos vient de se restructurer, le problème c'est qu'on se rend compte que si ça se trouve, l'effort déjà consenti risque de ne pas suffire pour se redresser. Mathieu Pechberti.
Atos n'a pas encore bouclé sa restructuration, qu'un deuxième sauvetage est dans tous les esprits. Le groupe a revu pour la deuxième fois en six mois ses perspectives de résultats. Pour cette année d'abord, sa marge sera près de deux fois inférieure à celle que le groupe prévoyait début avril. Un effet domino qui va se prolonger jusqu'en 2027. Là aussi, la marge est attendue désormais à seulement 1 milliard d'euros, soit 300 millions de moins qu'il y a six mois. Dans le secteur, personne ne croit à son redressement commercial, alors que les leaders Capgemini et Sopra Steria ont revu aussi à la baisse leurs prévisions de chiffre d'affaires. Malgré sa restructuration, Atos va retrouver un taux d'endettement très élevé et ce, dès 2026. Les créanciers valideront à la fin du mois leur reprise du groupe. L'un d'eux nous assure que des choix stratégiques majeurs seront faits dès l'année prochaine. Les deux anciens candidats au rachat d'Atos, Daniel Kretinsky et David Layani, restent en embuscade.
Nouvelle désillusion donc pour Atos. Mathieu Pechberti avec nous sur BFM Business. 19h09, c'est l'actu qu'on n'attendait pas du tout. Elle est tombée ce matin. Figurez-vous que Xavier Niel est depuis hier dimanche membre du conseil d'administration du chinois ByteDance, la maison mère de TikTok. Bonsoir Frédéric Simotel. En quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette histoire, Frédéric ?
Biden, c'est un immense conglomérat d'origine chinoise. Ce sont deux Chinois qui sont à la création. C'est des réseaux sociaux, donc on l'a dit comme TikTok, c'est des jeux vidéo, c'est de l'intelligence artificielle. Et derrière Biden, ce qu'on a, on a de très gros fonds. On a le Sequoia Capital, on a General Atlantic, on a KKR. Tiens, KKR, donc Xavier Niel est l'un des administrateurs. Voilà, ça a pu être un peu le lien entre les deux. On a des gens comme le japonais SoftBank. Et donc, alors, d'un côté, pour Xavier Niel, c'est quand même assez exceptionnel. C'est quand même la reconnaissance d'un entrepreneur français par l'establishment chinois de Biden, en tout cas. Donc voilà, il faut quand même reconnaître ce côté-là, l'entrepreneur français. Il remplace d'ailleurs une personne, son prénom m'échappe, mais Philippe Lafond, voilà, Philippe Lafond, qui était le patron du fonds spéculatif Coatue Management, qui était un fonds américain. Il le remplace, place pour place au siège. Mais voilà, donc d'un côté, pour Xavier Niel, reconnaissance internationale, voilà, de tout ce qu'il a fait. Et puis, peut-être... quelques ouvertures de canaux d'adresse vers le marché asiatique, pourquoi pas, pour investir davantage dans l'intelligence artificielle. Et puis de l'autre, ben pour les...
Et l'Europe aussi, accessoirement, peut-être.
Et voilà. Et pour les Chinois, pour eux, ouais. C'est peut-être avoir un conseiller qui connaît bien le marché européen, les méandres un peu du marché numérique européen avec toute cette réglementation. Et donc voilà, c'est gagnant-gagnant.
Merci beaucoup Frédéric Simotel avec nous sur BFM Business. Et puis nous allons finir ce journal avec ce qu'on appelle un sujet marronnier dans notre profession. Vous rentrez de vacances et vous rendez compte que vous avez accumulé des kilos et des kilos de mails pendant ces dernières semaines. Comment gère-t-on ce surplus de mails une fois rentré? Alexandra Paget nous donne quelques tuyaux.
Nous recevons 144 mails par jour en moyenne, 100 pour un collaborateur, près de 200 pour un manager, plus de 300 pour un dirigeant. Cette avalanche peut vite devenir anxiogène après 2 ou 3 semaines de congé si on a eu la sagesse de ne pas consulter sa messagerie pendant les vacances. Alors comment aborder cette rentrée mail? Fedwa El Ayoubi, DRH de Finnegan.
Faire comme ça une petite heure tous les jours pendant la première semaine, parce que si on fait une journée de mail, on n'est plus du tout efficace, on ne donnera pas les bonnes réponses. Et puis, il n'y a pas d'urgence qu'on n'a pas pu traiter à temps. Et si on ne l'a pas traité à temps, ça veut dire que ce n'était pas aussi urgent que ça.
Faire le tri, c'est l'autre clé pour un retour serein. En faisant la chasse aux mails dont vous n'êtes pas directement destinataire, par exemple en mettant en place avant de partir en vacances, en prévenant les collaborateurs, une règle automatique qui dirige les messages en copie directement vers la poubelle.
Alexandra Paget avec nous sur BFM Business. Les marchés. On va sur les marchés. Les marchés, bonsoir Antoine.
Bonsoir Guillaume.
On a terminé dans le vert ce soir à la Bourse de Paris.
L'épaisseur du trait, on va dire. Plus 0,2%. Mais c'est vrai que c'était une séance très très peu active parce qu'il n'y avait pas de journée boursière du côté de Wall Street. C'est jour férié aux États-Unis, c'est leur fête du travail. Donc, volume d'échange très maigre. On est resté sous les 2 milliards d'actions négociées. On s'est arrêté à 1,7 milliard sur les valeurs du CAC 40. Donc, plus 0,2%, 7646 points contre. Performance marquée du secteur des technos avec l'Euronext Tech Leaders qui perd 0,54%. Le DAX à Francfort, plus 0,13%, plus 0,3% pour l'euro. Stock 50. Donc un marché relativement peu actif. Notez quand même la belle hausse de Sanofi avec une série de nouvelles dans le domaine de la recherche contre la sclérose en plaques. Et là, le marché y a vu une occasion d'achat. Le titre signe la plus forte hausse du CAC 40 en clôture, plus 3,6% à 104,86€. Mais vous voyez, les autres valeurs en hausse, c'est plutôt des valeurs défensives. Orange, plus 1,65€, 10,47€. Pernod Ricard, plus 0,8%, 129,85€. À la baisse, toujours beaucoup de pression vendeuse autour de Téléperformance qui perd encore 3%. À 95,86€. Pression vendeuse aussi autour du secteur du luxe parce qu'on a eu des mauvais indicateurs du côté de la Chine, les PMI notamment ce matin. Kering signe une baisse de 0,8% à 256,85€. Plus forte baisse du SBF 120, c'est Emeis, moins 12%, 7,90€. Et puis Atos, dont vous avez parlé, avec un nouveau warning et le titre perd 7,3% à 76 centimes d'euros. Le CAC donc sur une légère hausse, plus 0,2%. L'euro 1,1068. Puis il y a un facteur à suivre, c'est un petit peu de volatilité autour du brut, du pétrole brut. On est repassé sous les $77 en séance. Là, on remonte légèrement au-dessus à 77,45. Guillaume.
Merci beaucoup Antoine. Antoine Larigaudry avec nous, bien sûr, tous les soirs sur BFM Business. Il est 19h14. On marque une petite pause et nos experts qui viennent dans un instant, qui sont avec nous jusqu'à 20h, bien sûr. De quoi est-ce qu'on parle ce soir? De Thierry Baudet, bien sûr, l'invité surprise potentiellement à Matignon. On parlera de l'Allemagne avec cette percée historique de l'extrême droite dans 2 régions de l'ex-RDA et puis les salaires en France. Parce qu'on a des chiffres qui nous laissent déjà penser que les fameuses ENAO qui vont commencer l'automne prochain seront assez rugueuses apparemment. Beaucoup de salariés, beaucoup de cas notamment, ont une revanche à prendre sur ce qui s'est joué cette année. Tout ça jusqu'à 20h, entre autres, bien sûr, sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h16, ils sont là bien sûr comme tous les soirs, nos experts, pour refaire l'actu ensemble en direct jusqu'à 20h sur BFM Business. Alexandre Malafaye est avec nous. Alexandre, bonsoir.
Bonsoir Guillaume.
Président fondateur du think tank Sinopia. Frédéric Bocard est avec nous. Frédéric, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue,
Guillaume. Bonsoir,
économiste.
Messieurs. Malheureusement, nous sommes que des hommes.
Eh oui, mais la parité, n'inquiétez pas, les femmes seront là petit à petit. La parité est en marche, même ici, on la souhaite de tout cœur. Économiste, membre des économistes atterrés, Jackie Isabello, bonsoir Jackie.
Bonsoir Guillaume.
Fondateur du cabinet, parlez-moi d'impact. Alors on va mettre beaucoup de conditionnels à tout ça, messieurs, forcément, mais il ne vous a pas échappé que dans la course à Matignon, il y a un nom qui sort du chapeau ce soir, exit Bernard Cazeneuve. Bonjour, peut-être Thierry Baudet, actuel président du CESE, 3e Assemblée constitutionnelle française, faut-il le rappeler. Vous avez siégé au CESE d'ailleurs
oui,
quelques années.
Oui, pendant 6 ans. Oui,
Frédéric. Donc, le lieu du consensus, les syndicats y sont présents, le patronat y est présent, les associations y sont présents. La première question que je vous posais est toute bête, est-ce que vous achetez le profil de Thierry Baudet à Matignon? Voilà.
Écoutez, la question, ce n'est pas le profil. D'abord, il faudrait respecter l'institution.
Là, on en est à chercher un homme qui ne soit pas renversé dans les 48 heures, vous avez bien compris ça, Frédéric.
On est en train d'empêcher que se forment des coalitions, parce qu'en réalité, le jeu démocratique, et c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait du même côté de l'échiquier que moi, qui est Dominique de Villepin, qui l'expliquait, il disait non, il faut laisser le jeu démocratique jouer, c'est-à-dire nommer, permettre les coalitions, et voir ce qui se passe, et comme ça, au fur et à mesure, les choses se dégagent. Parce que rien ne peut préjuger sur des propositions que Lucie Castet aurait faites de développement des services publics, d'un autre financement, des personnalités de droite auraient pu la rejoindre. Donc là, le problème, c'est plutôt Emmanuel Macron est dans une impasse et veut bloquer le pays. Le pays n'est pas bloqué parce qu'en réalité, Emmanuel Macron déroule et continue. On voit bien que d'ailleurs le directeur de cabinet, on en rigolait dans les couloirs, le directeur de cabinet de Thierry Baudet est déjà annoncé et trouvé par l'Elysée.
Ah bon ?
Oui, ça pose un problème. Oui.
C'est un nom à nous donner ou c'est confidentiel pour
Ah, j'ai plus le nom. Baume, qui est ancien préfet, ancien directeur de cabinet de Benoît Hamon. Ça fuitait dans le Monde.
Ah, vous êtes déjà même le nom du futur directeur de Thierry Baudet à Matignon.
Oui, mais d'accord. Donc il faut qu'il respecte l'institution CESE, plutôt que d'aller prendre quelqu'un du CESE, aller le nommer et dialoguer effectivement avec les forces vives de la nation.
Alors, premier tour de table,
nouveau de la part
profil
d'Emmanuel Macron.
Technique plus que politique issu de la société civile. Est-ce que vous croyez encore au choix de la société civile en 2024? Vous ne dites pas avec le temps, les expériences, l'expérience a montré ses limites finalement.
On croit évidemment aux expériences de la société civile, mais dans ce cas-là, il faut quelqu'un qui ait un poids politique.
Au plan ministériel, on a eu des exemples des gens de la société civile, jamais à Matignon directement, mémoire.
On a eu l'expérience de la société civile à l'Élysée quasiment, puisqu'on est arrivé, bonjour, j'ai fait l'ENA, j'ai un beau sourire, je fais Paris Match, et tiens, si vous pensiez à moi pour être président de la République, je caricature et c'est pas très respectueux, mais compte tenu de la situation, je me permets de manier un peu le sujet avec humour. Oui, la société civile, de toute façon, quoi qu'on pense des expériences, c'est indispensable parce qu'elle est présente un peu partout, elle doit l'être en politique, mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est un véritable poids lourd. Et revenons pas sur tous les commentaires qui ont été faits. Depuis le début, et je suis rarement d'accord avec François Bayrou, et je le connais depuis très longtemps, pour dire que la relation bilatérale qui a été imposée par le président de la République ne pouvait provoquer que deux choses. Un, et c'est le pire, c'est l'affaiblissement de la fonction présidentielle, parce que quand on fait du bilatéral, on veut rester au centre des négociations. Et comme il était en incapacité de finalement d'imposer son choix, ça ne pouvait que l'affaiblir. Et deuxièmement, ça empêche de placer la responsabilité sur l'ensemble des forces politiques qui étaient les vedettes de ces élections législatives. C'est elles qui ont été élues pour constituer cette assemblée parlementaire et cette démocratie parlementaire. Et à aucun moment, ils ne se sont réunis en disant « Les gars, les filles, on se voit à l'Assemblée ce soir, il y a plein de salles, sandwich, jus de fruits, et nous, on va faire des propositions au président de la République. » Et donc, on arrive à M. Baudet, qui est sans doute extrêmement
compétent. Parlez-moi un peu de M. Baudet,
qui est un mutualiste. On sait que dans l'univers du mutualiste, c'est proche du paritarisme, il y a énormément de négociations. Il connaît bien les dossiers sociaux. Mais là, aujourd'hui, il va falloir être capable de repousser les vagues gigantesques, les mascarets qui vont revenir de la mer, qui s'appellent Attal, qui s'appellent Wauquiez, qui s'appellent Faure et qui s'appellent la bande à Mélenchon. Qui peut faire ça? Nonobstant son talent, c'est sans doute pas Thierry Baudet qui pourra y arriver. Vous disiez tout à l'heure,
pas
en plaisantant
de
à moitié, que l'idée c'est de savoir qui va
Il y a une première urgence budgétaire, on le rappelle.
Vous savez, l'image qui me vient en tête, c'est lorsque je me levais à 3h du mat quand j'étais ado et que je voyais les combats de boxe de Mike Tyson. Je me disais, si le gars tient un round, ça sera exceptionnel. On aura dépensé un peu d'argent à bon escient et il tenait rarement un round et c'est ce qui risque de se passer.
Alexandre, est-ce que vous voyez Thierry Baudet, vous, dans l'enfer de Matignon, ce qu'on appelle communément l'enfer de Matignon, avec une première urgence, je disais budgétaire, il y a un budget sur lequel il va avoir quelques jours pour mettre sa patte, si c'est lui, budget qui va ensuite aller devant le Conseil d'État, au Conseil des finances publiques, qui doit passer au Conseil des ministres et qui arrive le mardi 1er octobre. C'est dans un mois. Allez là, l'urgence quand
je
même.
Je le vois peut-être, parce que ça peut être une décision qui est prise par le président. Je le vois réussir, pas vraiment. Les critères ont été évoqués. Je veux dire, il faut trouver quelqu'un qui, en théorie, soit compétent, qui ait de l'expérience, qui sache faire, qui connaît l'Assemblée, qui a été ministre, qui sait comment fonctionne l'Élysée et qui a du caractère. Parce qu'en plus, quelque part, dans cette mandature-là, enfin, ce moment politique-là, quelque part, le programme politique qui va être mis en œuvre, parce que M. Baudet, on ne sait pas ce qu'il propose, on ne sait pas ce qu'il veut faire, on ne sait pas. Voilà, il n'y a rien de connu. On sait qu'il a modifié son profil Wikipédia ou qu'il l'a fait modifier, ou quelqu'un l'a modifié pour lui pour dire qu'il était pressenti pour aller à Matignon. Ça ne suffit pas à en faire un candidat crédible. Après, la problématique, elle est effectivement sur la compétence, mais le vrai sujet, en fait, c'est pas tellement le profil, c'est la compatibilité avec Emmanuel Macron. Parce que c'est vrai que c'est une décision qui est très difficile à prendre pour lui. À partir du moment où il nomme quelqu'un qui est globalement asymétrique en termes de parcours, de formation, de niveau par rapport à lui, globalement, il va essayer de garder la main. Entre lui et son directeur de cabinet, ils vont essayer d'avoir une forme de tutelle sur Matignon, comme ça a été très souvent le cas. Et quand vous regardez toutes les nominations d'Emmanuel Macron, que ce soit sur un plan politique ou sur un plan de la société civile, la plupart de ceux qui avaient globalement le même niveau que lui ont fini par sortir. Il y a eu un effet d'éviction. Donc là, on va avoir quelqu'un qui risque d'être effectivement sous, entre guillemets, tutelle, donc ça ne peut pas durer très longtemps, et qui permettrait en tout cas à Macron de se retrouver dans une situation, Emmanuel Macron, pardon, de se retrouver dans une situation où, en fait, quelque part, il n'est pas totalement cornérisé. Parce que le jour où il nomme quelqu'un à Matignon, il n'a plus aucun moyen entre les mains pour le sortir du jeu, tant qu'il n'a pas de motion de censure. Et deuxièmement, il n'a plus la main sur le contenu politique, parce que si l'autre en face a du caractère et fait ce qu'il veut, que voulez-vous que fasse le président ? Il n'a plus la main. Et en plus, il ne peut pas dissoudre pendant un an.
Est-il outillé, justement, le patron du CESE, Frédéric Bocara ?
Alors, c'est effectivement, il faut peut-être pas trop psychologiser les choses quand même, parce qu'il y a des questions politiques, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que même s'il avait du caractère, si on n'a pas de poids politique, c'est autre chose. Effectivement, le problème qu'on a, c'est Emmanuel Macron qui ne veut pas lâcher la main à travers ça. De l'autre côté, comment dire, le CESE, c'est une chambre de débat. C'est pas la chambre de consensus, c'est la chambre de débat. Moi-même, j'ai présenté un avis où il y avait deux dissensus. C'est-à-dire qu'il donne un peu l'éventail du débat et des enjeux. Donc au contraire, et qui dit, et qui se tourne vers le politique en disant « trancher ». Matignon, c'est tranché. C'est autre chose.
L'Assemblée, c'est encore autre chose. Voilà,
l'Assemblée, c'est encore autre chose. Ouais. Mais je pense sentir suffisamment ce que peut être le président du CESE pour qu'il exige quand même que Emmanuel Macron reconnaisse qu'il a perdu. Parce que si c'est vraiment lui imposer un directeur de cabinet et dire j'ai gagné,
si déjà
je prends
ne
une doublure,
vraiment pas sur le fait que Emmanuel Macron a perdu. Je vois pas où ça va aller.
Ben oui, mais donc c'est pas seulement l'entente, c'est la question politique qui est derrière, effectivement. Non, mais après, en positif, ça manifeste le fait que les corps sociaux organisés, parce que c'est une représentation de la société civile organisée, le CESE, c'est pas toute la société civile, c'est une représentation plutôt organisée. C'est une manifestation que la société civile organisée, ça compte. Et ça, cette reconnaissance-là est importante. Bon. Et quelque part, il se prend lui-même à contre-pied, Emmanuel Macron.
Mais alors Thierry Baudet, je vous parle de Thierry Baudet.
Parce qu'il n'a pas respecté la société civile
Thierry
pendant
Baudet,
tout son mandat, ses deux mandats.
Outillé ou pas, outillé ou pas, mais Thierry Baudet, pour quelle politique à Matignon? Voilà, ouais. Je vous pose la question.
Alors, moi, je voudrais dire quand même aussi quelque chose. Je trouve que tous les commentaires convergent dans un sens. On a l'impression que l'ensemble de la classe politique et des observateurs sont une espèce de troupeau de moutons qui se dirigent devant une falaise. Je prends un exemple. Aujourd'hui, il y avait une manière de résister et de dire non, nous ne connaîtrons pas une deuxième étrange défaite. Sur quel dossier ? Les hommes politiques auraient dû dire, voilà, nous ne sommes d'accord sur rien, sauf qu'il y a un dossier majeur qu'il faut absolument régler aujourd'hui. C'est pas le budget. C'est la France en Nouvelle-Calédonie. Il y a des morts, il va y avoir des émeutes de la faim. L'État et le monopole de la violence légitime de l'État est remis en question. La place géopolitique de la France est menacée là-bas. L'Azerbaïdjan est en train de semer un bazar incroyable. Si les forces politiques s'étaient dit « nous ne sommes d'accord sur rien, constituons un gouvernement », et résolvons ce problème. Ils auraient pris la main et ils auraient imposé à Emmanuel Macron un projet. Les journalistes seraient allés voir ce qui se passe là-bas. Il y a 30% de la classe économique qui est au chômage. C'est une véritable catastrophe. Ils auraient pu imposer dans le débat politique un dossier et je suis certain que déjà, ils auraient pu commencer à entamer ce que doit faire un gouvernement, c'est-à-dire faire des analyses, des constats et des décisions extrêmement rapides et encore une fois sur un dossier qui est majeur, majeur, majeur.
Oui, Frédéric, Alexandre.
Non, mais sur la Nouvelle-Calédonie, c'est un désastre. Ça fait des années qu'en tout cas, moment que la situation dérape. Et là, depuis quelques mois, on ne s'en donne pas les moyens. C'est ça, c'est clair. Après, pour faire quoi ? C'est la vraie question
du débat. Est-ce qu'il est là pour 11 mois, 10 mois ? Voilà,
ou 3 mois, ou quelques semaines. Ça peut aller très vite. La question du faire quoi ? Bon, c'est un homme de gauche, donc on peut imaginer qu'il va rassurer plutôt à gauche. C'est un homme raisonnable, parce qu'en général, à la tête du CESE, on a rarement des excités. Pour avoir connu quelques présidents de CESE, c'est plutôt des gens qui ont des têtes bien faites, et qui ont une vraie expérience. Et c'est vrai que de ce point de vue-là.
C'est
intéressant sur le plan de la méthode. C'est-à-dire que quelque part, ce sont des personnalités qui arrivent
de gens aux affaires. Comme dans la société.
Oui, mais qui ont quand même des personnalités qui ont été un peu habituées à faire avec les autres. Donc au CESE, on n'est pas un autocrate qui peut effectivement essayer de piloter cette boutique en disant je fais comme ça, ce sera comme ça. Ça fabrique des consensus ou des dissensus, mais en tout cas, ça en parle. Donc cette espèce d'approche méthodologique, elle peut être utile dans un pays où, à un moment donné, il faut essayer de trouver des lignes d'action, des lignes de réunion. Maintenant, de toute façon, il faudra, quoi qu'il arrive, quels que soient les hommes ou les femmes qui arriveront aux affaires et à Matignon, et dans les ministères, il va falloir envoyer quelques signaux à gauche, quand même pas possible, sur certains sujets, de rester droit dans nos bottes, ça c'est
sûr. Peut-être rassurer un peu une partie de la gauche social-démocrate, est-ce qu'il va essaimer à droite ?
De toute façon, vous n'avez pas le choix, Guillaume, si je puis me permettre, vous n'avez pas le choix. Un, il va falloir, de toute façon, vu l'état du pays, et de la colère du pays, et du peu de marge de manœuvre que l'on a, il va falloir trouver des marges d'action ensemble, et deuxièmement, il va falloir donner des gages à la gauche, peut-être un peu sur la réforme des retraites, peut-être de manière marginale, sur certains sujets, mais ça peut se faire sans que ça coûte très cher. Et après, il va falloir traiter les sujets régaliens. Il ne va pas falloir perdre de vue l'Europe, et il ne va pas falloir casser le moteur économique. Donc si vous pêchez sur l'un de ces quatre trucs, grand sujet, vous êtes certain d'une chose, c'est que de toute façon, vous le paierez à un moment ou à un autre, soit par les déficits, soit par la colère qui montre, et les prochaines élections, soit par le déclassement de la France, qui est de toute façon qui nous pend au nez.
Une sorte de consensus est-elle possible ?
C'est sûr qu'il va falloir faire...
Là, d'horizon quelques jours, pas plus.
Moi, je pense qu'il faut laisser... Ce n'est pas seulement la classe politique, les forces politiques s'entendre. Il faut redonner de l'importance à la politique, mais y compris au sens où c'est le débat dans la cité, etc. Je pense que c'est très grave, en réalité, ce qui se passe, parce qu'il y a d'autres forces qui se nourrissent de ce qui se passe. Et ça peut faire monter une forme de, pas seulement de rejet, mais de violence. Il y a un côté bonapartiste dans le régime qu'on a, d'hyperprésidentialisation, ça s'est mal fini. Napoléon III. Et je voudrais pas que ça se finisse comme ça. Donc, alors après, sur les retraites, bien sûr, il faudrait donner des gages. Mais ce qui se dit, c'est qu'Emmanuel Macron, lui, dit « Ah non, on peut pas, même pas suspendre. » Ça lui aurait été proposé. Ah,
attendez, Frédéric, on a senti quelques ouvertures la réforme des retraites du côté de l'entourage du
Une autre
Macron,
réforme, peut-être, une nouvelle réforme à point.
Sur les 18-20 ans, on peut lâcher un peu de l'Est, ça ne change rien. Sur les 18-20 ans.
Oui, mais si ça ne change rien, les gens, ils ne sont pas cons. Vous voyez, moi, j'ai pris 3 ans d'un coup, au lieu d'avoir 2 ans pour la retraite, c'est 5 ans. Donc ma génération, et si on est le baby-boom, on est nombreux. Si la génération qui sentait la retraite, elle se voit se reculer 3 ou 4 ans, et qu'on lui dit non, ce niet, c'est 3 ou 4 ans pour toi quand même, non seulement on ne crée pas les centaines de milliers d'emplois qu'on pourrait créer avec les départs, mais en plus, c'est eux qui peuvent se mobiliser, c'est eux qui sont mal à l'aise et ont les meurtris encore, ça ne fera pas la maille. Parce qu'il y a la colère, il y a le pays qui est déchiré. Donc effectivement, il faut donner des signes. Est-ce qu'ils y sont prêts ?
Est-ce qu'il en est prêt ?
Et il faut trouver des sujets, vous avez raison, une Nouvelle-Calédonie, c'est un sujet. Mais même le déficit, en réalité, on a 7 ans aujourd'hui avec le pacte de stabilité pour dire les choses. Donc on pourrait prendre les choses avec un peu plus
de raison. On doit envoyer à Bruxelles le 20 septembre une nouvelle trajectoire.
Une trajectoire, mais 7 ans de trajectoire. Ça veut pas dire je réduis demain.
7 à 8 ans même.
Déjà qu'on arrive à envoyer une trajectoire, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Et la respecter.
Oui, donc crédible.
Allez, Thierry Bonnet, tout ça au conditionnel ce soir, bien sûr, 19h30.
7 ans.
BFM Business, 7 ans, oui.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h34, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts Alexandre Malafaille, Frédéric Bocara, Jackie Isabello, 20 et quelques minutes ensemble, sans pub, à décortiquer l'actu économique. Juste avant de parler de l'Allemagne et de la percée de l'extrême droite en Allemagne, je voulais vous dire un petit mot de ce que prépare le MEDEF, là, qui craint, comme il n'est pas permis, les prochaines semaines. Et c'est le journal Les Échos qui nous expliquait ce matin que le MEDEF avait décidé de prendre le taureau par les cornes et de demander à ses fédérations locales, à ses représentants locaux, d'aller voir le député de la circonscription pour faire de la pédagogie. On craint ce qui peut arriver à l'occasion de ce budget qui va arriver début octobre à l'Assemblée, avec des députés qui, pour certains, nous font leur premier mandat, donc ne sont pas très au fait de la question macroéconomique. Voilà, le MEDEF craint Ce qui va se passer, c'est-à-dire ce budget qui va arriver et qui va être en fait essentiellement élaboré à coups d'amendements qui vont venir de tous les horizons finalement.
Nous avons fait ensemble une émission la semaine dernière qui était organisée à l'occasion de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France au MEDEF, et nous avons écouté religieusement le discours de Patrick Martin, et donc dans son discours il parlait de construire un front économique parce que les entrepreneurs redoutent certaines des propositions qui peuvent être mises en avant et qui d'un point de vue économique peuvent poser des questions. Je serais assez mesuré. Donc le MEDEF est déjà dans sa posture de gérer les affaires publiques des entrepreneurs, puisque en tant que mouvement interprofessionnel, les fédérations, eh bien, lui confient cette mission. Ouais. Là, il l'annonce parce qu'il pense qu'il faut accélérer cette démarche. Et si d'habitude, ils sont plutôt au fait de discuter avec des gens qui sont sensibles au sujet économique, ils décident d'aller voir tout le monde pour les acculturer à ce que peuvent être les contraintes des petites entreprises, des moyennes entreprises, qui sont la majorité sur les territoires. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis le deuxième point, c'est que Patrick Martin...
Comme disait Emmanuel tout à l'heure, Emmanuel Le Chip, il jouait sur du velours depuis 10 ans finalement. Mais le MEDEF, voilà.
La politique de l'offre était là depuis 7 ans est très favorable aux entreprises. Mais le deuxième point, c'est que Patrick Martin a compris que, étant donné que le gouvernement n'est pas constitué et que les forces politiques aujourd'hui ne font que de s'attacher, de s'entremêler leurs propres lacets, eh bien il se dit, voilà, moi je représente une puissance économique, donc politique, et je dois occuper un espace qui n'est occupé par personne aujourd'hui. Donc, et il faut que ce soit, eh bien, avec un discours économique plus que politique, et à ce titre-là, c'est intéressant.
Donc c'est le MEDEF qui, faute de combattants, à faire ce travail de pédagogie attendant le budget. Alors,
je trouve que c'est très intéressant, parce que moi je plaide pour qu'on fasse de la pédagogie, effectivement. Mmh. Et ça devrait en alerter certains sur le besoin de pédagogie dans les territoires et de débats ouverts d'ailleurs sur la pédagogie économique. L'économie n'est pas neutre. Le MEDEF veut faire croire que c'est neutre, il y a des lois éternelles économiques. Si, j'ai écouté les interventions de Patrick Martin, bien sûr, qu'il y a des lois économiques, c'est comme ça, et ça change pas. Non, pas du tout. Il y a besoin d'avance pour se développer, d'abord. Donc le déficit, c'est pas forcément mauvais en soi. Là où le MEDEF dit, préalable, réduire le déficit, non. Comme on l'a dit, on peut faire des avances, on a 7 ans pour les résorber. Si on développe, au contraire, on va avaler la dette. Donc il y a besoin d'avance. L'enjeu, c'est ces avances aujourd'hui, il les faut pour les capacités humaines, pour la formation, pour l'emploi. Là où le MEDEF dit avant tout pour le capital, voire pour l'accumulation. Et les PME vont en souffrir. Donc il doit y avoir débat. Oui, il faut des avances, mais pourquoi ? Donc il faut débat avec le MEDEF. Mais pas que le MEDEF aille susurrer alors que les responsables politiques ont abandonné leur mission, c'est un peu religieux, mais leur job, qui est de la pédagogie, le brassage d'idées et faire débattre. Or, il y a besoin d'autre chose. Par exemple, on dit économie de l'offre, en fait, on veut dire économie du profit. Il faut une autre offre. Moi, j'ai fait un débat avec Aurélie Trouvé. Elle me disait la demande. Je dis non, il faut demande pour une nouvelle offre et des transformations de structure au milieu. Elle me dit, ah oui, c'est intéressant, je suis d'accord maintenant, il faut faire l'offre. Elle n'était pas d'accord parce que j'avais fait le job dans le débat. Donc, l'offre, c'est pas neutre.
Vous avez fait l'évangélisation, vous aussi.
Mais non, mais est-ce que c'est une offre à base du capital et de la finance ou est-ce que c'est une offre à base de capacité humaine ? Et là, il y a débat.
Est-ce que le MEDEF est dans son rôle, dans ce genre de circonstances ? Il agit faute de combattants, voilà, il va faire son job, le MEDEF, tout simplement.
La démocratie marche bien quand elle a deux jambes, la démocratie politique et la démocratie sociale. Oui. Ça fait quelques années que la démocratie sociale elle est légèrement amputée. Essayer de relancer la démocratie sociale et de le faire aussi dans les territoires, au plus près du terrain, pour faire de la pédagogie, du dialogue social et économique, comme on dit dans les CSE, c'est plutôt bien. Le faire auprès de tous les parlementaires, c'est plutôt astucieux, parce qu'il y a quand même dans ce pays une inculture économique, et encore plus une inculture liée à la connaissance de ce que sont les entreprises. Et je prendrai un exemple très simple. On vient de publier il y a quelques mois un rapport sur l'intérêt de l'économie sociale et solidaire, et en particulier des entreprises qui remplissent des missions de service public. On a écrit à tous les parlementaires qui viennent d'arriver pour leur rappeler notre rapport. On a reçu d'un député insoumis, je ne citerai pas, un message de remerciement de notre rapport, et nous expliquant que, bon, très bien, les propositions étaient très intéressantes, mais de toute façon, pour eux, il n'y avait qu'une seule vision, c'était tout ce qui est lié à l'activité publique ou parapublique devait être géré par l'État, rien que l'État. Même quand c'est l'ESS. Donc, je veux dire, il y a une espèce de méconnaissance des réalités et de l'incapacité de l'État à tout bien faire, même quand il s'agit de l'ESS, qui est absolument confondant. Donc, aller parler à ces gens-là, expliquer gentiment, voilà, petit à petit, refaire un peu de pédagogie, tout ça ne peut aller que dans un sens moins négatif.
Il ne faut pas du monologue.
Ah bah oui, ah, ça, mais ça, ils urneront, hein,
mais sincèrement. Il ne faut pas du monologue.
Là, pour ceux que je connais des insoumis, c'est difficile de faire un monologue
si
avec
c'est
eux.
Si c'est le MEDEF qui y va, ça va faire du monologue. Ouais. Donc effectivement, il faut ouvrir le champ à l'éventail.
Non mais là, d'accord. Il s'agit de sauver ce qui peut rester de la politique de l'offre, on a bien compris. Enfin, le message
mais, non,
de fond du MEDEF. Mais c'est ça,
on brandit le mot politique de l'offre pour développer les profits. Les travailleurs qualifiés, ça fait partie de l'offre.
C'est un des aspects, mais je pense que le deuxième point politique dont je vous parlais tout à l'heure, en disant puisque les forces politiques sont dans l'incapacité de montrer aux Français qu'il y a un pilote dans l'avion, eh bien, les forces économiques ont un job à faire, c'est de dire qui vote les lois. Ce sont souvent des nouveaux, ils n'ont pas forcément le connaissance de l'ensemble des mécanismes. Eh bien, il faut qu'ils comprennent comment bien voter des lois en ayant en tête les règles économiques et puis les spécificités de notre modèle social, qui est important à tous, qu'on soit MEDEF, et je l'ai été, ou qu'on soit de l'autre côté de la barrière, on est tous
dans le même bateau, comme disait Raymond Barre, non.
Qui est un modèle économique français que nous chérissons. Après, la façon de le faire, la façon de le maintenir, la façon de régler les équilibres économiques et financiers, on n'a pas forcément les mêmes réponses. Mais en tout cas, la base de modèle de protection sociale, on y est tous attachés.
Bien, bien.
Oui, maintenant, vous y êtes attachés.
Comme dirait le général, vaste programme.
Voilà, exactement. C'est parfaitement résumé. L'Allemagne, qui a donc vécu hier soir un événement historique, puisque les chiffres sont désormais officiels. L'AFD, qui a à peine 10 ans d'existence, parti qu'est né en 2015, l'AFD a réalisé une percé dans deux régions de l'ex-RDA. Il est arrivé en tête en Thuringe et talonne la CDU en Saxe, parti anti-migrant, pro-russe, eurosceptique, climato-sceptique. Grosse déception pour la CDU. Écoutez, tiens, la tête de liste en Thuringe, Mario Voigt, forcément déçu hier soir.
Natürlich sehen wir auch die.
Bien sûr, nous constatons que l'AFD est en train de gagner des voix et c'est aussi le résultat de la mauvaise politique de Berlin. Et nous voulons contrer cela ici en Thuringe avec de bonnes politiques.
Bon, l'AFD ne dirigera ni la Thuringe ni la Saxe. Hein. Ils auront peut-être une minorité de blocage, mais ils ne contrôleront pas ces régions. Est-ce que ce qui s'est passé vous paraît historique ? Est-ce que vous qualifiez d'historique ce qui s'est passé en Allemagne ? De la part d'un parti, disons-le, qui est né en...
Le qualifions, c'est
2015.
C'est les observateurs, les politistes qui montrent bien qu'en quelques années, l'AFD a enregistré quasiment 10%. Donc des gens qui se déplacent, hein, et les économistes ont étudié le coût de ce que c'est un vote en termes d'information, en termes du fait que le dimanche on va ici plutôt qu'aller au cinéma, etc., etc. Donc ce sont des gens qui sont derrière, et à ce titre-là c'est assez considérable ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'ils gouverneront pas? Ça se passera pas comme en France, en tout cas il n'y aura pas un espèce de front républicain, mais le fait est là, c'est qu'il y a une masse de gens dans un pays, on va pas revenir, qui a connu les atrocités du nazisme, deux, d'un communisme excessivement excessif, j'allais dire. Cette redondance marque l'importance. Voilà. Après, vous savez, il y a un sociologue politique qui est assez marrant, qui est assez jeune d'ailleurs, donc à ce titre-là, il a toujours une façon nouvelle de voir les choses, qui s'appelle Raphaël Lorca. Il dit, avant, on parlait des grands idéaux politiques, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Et la force des mouvements populistes, c'est de faire du consumérisme populiste. Et donc, il dit, par exemple, Marine Le Pen, elle parle comme, entre guillemets, et il ne doit pas le prendre pour lui, comme Michel-Édouard Leclerc. C'est-à-dire de pouvoir d'achat, de choses extrêmement concrètes. L'universalisme, les grands idéaux de l'État, l'intérêt supérieur de l'État. Pour l'électorat, ça ne veut plus rien dire. C'est ce que fait l'AFD. C'est ce que fait le Rassemblement National. C'est ce que font les forces populistes
en général.
Deux partis
qui ont des relations absolument exécrables.
Et d'un point de vue de marketing politique, c'est très bien.
Oui, bien sûr.
Deux partis
qui ne
font pas des relations
politiques.
Quand l'AFD a mordu le trait.
Quand l'AFD a mordu le trait. Ils ne siègent pas dans le même groupe.
C'est pas exactement ça. Quand l'AFD a mordu le trait, le RN s'est dit, c'est le bon moment pour sortir de ce groupe, pour ne pas être associé avec l'AFD. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des relations exécrables.
Mais pour conclure, le mouvement est inquiétant. Le mouvement est inquiétant.
Oui.
Et d'autant plus dans ce pays et dans cette région, qui est une ancienne région de l'Allemagne.
De Länder, d'ex-RDA, évidemment. Alexandre Malafaille.
Oui, le parallèle avec ce qui se passe en France et l'évolution des masses électorales est quand même extrêmement frappant. Oui. On voit bien qu'il y a une réalité qui est en train de rattraper la façon de faire de la politique d'en haut. Enfin, là, en l'occurrence, c'est Berlin qui était pointé du doigt par le leader de la CDU. Bon, lui. Mais c'est quand même, à chaque fois, c'est le centre qui est pointé. Ce qui est quand même assez extraordinaire aussi, c'est que là, c'est bien pire qu'en France. Oui. Quand on voit le résultat du parti du chancelier, on est à 6 et 7%. Quoi. C'est absolument un effondrement incroyable. Mais après, tous ces résultats, ils disent quoi? Ils disent que quoi qu'il arrive, il va falloir s'occuper de tous les électeurs et des problèmes de ces électeurs. Parce que c'est pas que des perceptions, c'est pas que des fantasmes, c'est pas que des gens qui sont manipulés, c'est pas que des gens qui font l'objet de désinformation. Il y a un fond de réalité, de mécontentement, d'injustice, de sentiment de déclassement, de peur de l'avenir.
Ben, ça nous dit beaucoup de choses sur l'Allemagne, sur la façon dont l'Allemagne a vu tous ses repères chamboulés depuis 3-4 ans du fait du Covid sur le plan commercial. Sur le plan énergétique, oui. Sur le plan de la défense, ça dit beaucoup de choses.
Oui, juste un point, juste un point, ça dit quelque chose. Juste un
et
point
puis des promesses qui ont été mal répondues de la réunification. Parce que quand nous on parle de 2005, oui. Bah chez eux aussi, ces vieux sujets, ces vieilles rancœurs, elles réémergent. Oui. Pardon.
Oui, non, mais c'est juste pour compléter, pour dire que quelque part, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a souvent loué le modèle allemand. En disant finalement il y avait une gouvernance qui était au plus près des territoires avec des Landes pour le coup parce que dans ces pays fédéraux avec des vraies prérogatives et en dépit de cette plus grande proximité du territoire et eh bien malgré tout on voit bien qu'il y a une incapacité à un moment donné à délivrer ça de manière suffisante et qui fabrique des corps électoraux qui sont extrêmement préoccupants.
Frédéric Bocquera. Oui, non, je veux pas ajouter des choses juste qui ont été dites quand même. Il ne s'agit pas de dire « Oh là là, les Allemands » et de ne pas voir la poutre qui est dans notre pays et qui est chez nous quand même. Ouais, on est d'accord, d'accord. Et chez nous aussi, ça s'est passé très vite. En 84, en 83, Le Pen y faisait Epsilon. En 84, aux Européennes, après la manifestation en Lorraine d'ailleurs, sous la gauche qui avait déçu, il passe à 10% d'un coup.
En 86
en 84, il passe à 10% d'un coup. Il passe de 0 à 10%.
Non, mais ils mettent des élus à l'Assemblée nationale.
Oui, mais bon, je veux souligner ça, parce que en termes de rapidité et de score électoral, c'est peut-être plus fort. Donc bon, il y a le social, il y a le sentiment de déclassement, il y a la guerre. Il y a la guerre aussi. Et on sous-estime comment on a un couple austérité-guerre en face duquel il faut répondre. Autre chose que guerre et austérité renforcée. Que armes et austérité renforcée. C'est ça le problème. Et là-dessus, les femmes et hommes de bonne volonté doivent pouvoir s'unir, comme dans les années 30, ils ont trouvé. Parce que c'est services publics et emplois efficaces. C'est autre type de relations internationales. Donc les gens, avec leur vécu, ils posent quand même des questions profondes qu'il faut oser affronter.
Et ils votent. Le traumatisme.
Pourquoi on n'envoie pas une force d'interposition en Ukraine?
Et j'ajoute le traumatisme aussi. Il faut ajouter ça parce que l'actualité l'a rattrapé aujourd'hui. Traumatisme de l'industrie automobile allemande, naguère, quelques 800 000 salariés. Et Volkswagen qui vous dit aujourd'hui, est-ce un hasard ou un coïncidence si cette annonce fuite aujourd'hui? L'agence France-Presse nous dit. Le patron de Volkswagen, dans un document interne, a dit nous envisageons de fermer.
Voilà, alors on se dit le modèle allemand. Alors on sait dans chaque crise, tout d'un coup les Français disent ah le modèle allemand peut plus
limiter. C'est tout ça qui est interrogé, remis en question finalement.
Et à chaque fois, sans revenir à René Girard et à d'autres, on trouve des boucs émissaires et on apporte des réponses qui sont des réponses à terme, souvent extrêmement violentes.
C'est la crise migratoire de 2015 quand même qui a engendré
la Syrie. Et aujourd'hui, voilà, on dit aux gens voilà où sont les problèmes, ils le croient et c'est ce qu'on fait également en France. Et c'est très difficile d'expliquer que les choses sont beaucoup plus grises. Que ce qu'on veut bien.
Elles sont à la fois grises et simples. Je pense que cette question du poids de la finance et du capital, on la sous-estime dans sa dimension systémique. C'est-à-dire qu'on peut faire des choses très positives en s'émancipant.
Il y a un beau sujet sur le partage de la valeur dans ces grands
pays. Pas seulement le partage de la valeur, mais s'appuyer sur les capacités humaines aujourd'hui parce qu'on est en train de changer de modèle. Et ça, on ne veut pas le voir.
3-4 minutes pour revenir en France et pour parler salaire, messieurs, parce que vous savez que les fameuses ENAO, négociations annuelles obligatoires, vont commencer à l'automne. Et on a des chiffres qui nous montrent que ça s'annonce encore s'étendue. Étude du cabinet Robert Walters qui nous dit 45 des cadres qui ont déclaré avoir été augmentés cette année, 45 des cadres ont déclaré avoir été augmentés cette année contre 68%. 45% de ceux qui ont été augmentés estiment qu'ils n'ont pas été augmentés. La majorité a obtenu une hausse de moins de 5%, c'est-à-dire inférieure à l'inflation. Il y a quand même un petit parfum de revanche dans les revendications qui vont arriver sur la table dans les entreprises cette année pour 2025, là, forcément, là, les salaires.
Je ne sais pas si on peut dire revanche. Je pense qu'il faut, en tant qu'économiste, faire attention à une chose.
Alors que l'inflation décroît.
Oui, mais l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Oui. Mais ils n'augmentent plus à partir d'un niveau très haut. Et donc, les budgets se trouvent amputés. Donc, c'est normal que les gens réagissent. Et en plus, ça a duré. Donc il y a un effet de durée sur des dépenses sur lesquelles les gens se sont empêchés, plus les dépenses contraintes de logement qui sont fortes. Donc je pense qu'il y a besoin de prendre les choses de façon systémique. C'est sûr qu'il faut une augmentation des salaires dans l'entreprise, mais il y a un problème du côté du logement, et il y a un problème du côté des services publics. Il faut traiter un ensemble.
de façon convergente.
Quand vous avez aujourd'hui deux types de cas, il y a pour une partie des Français nombreux, il y a un problème de reste à vivre. Mmh. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, et compte tenu de ce qu'on a pris en face les uns et les autres depuis 2, 3, 4 ans.
Les dépenses incontournables, le poids des dépenses incontournables.
Les impôts, y compris. Ouais, ouais. Voilà, on dit que ça baisse, mais ça, enfin, quand on est propriétaire, à Paris, c'est plus 4% cette année. Enfin, c'est quand même des scores qui sont très importants. Donc il y a un problème de reste à vivre pour beaucoup de nos compatriotes. Et pour ceux qui gagnent un peu mieux leur vie que la moyenne, il y a un problème clair, c'est qu'aujourd'hui, on ne met plus d'argent de côté. Donc globalement, vous
ne pouvez
plus. Voilà, plus. Donc c'est vrai que ça interroge aussi, vous gagnez pas mal votre vie, vous gagnez 3, 4, 5 000 balles par mois, 10 000 balles par mois, 20 000 balles pour d'autres, hein, voilà, des gens qui gagnent très bien leur vie. Mais quand ils voient effectivement tout ce qu'ils ont apporté, à supporter, de peu qu'on achète son appartement avec les taux qu'on a supportés ces dernières années, etc., là encore, vous vous rendez compte que vous ne pouvez plus arriver à mettre un peu de sous de côté. Donc forcément, ça préoccupe.
Et le recul des services publics, qui coûte. Hein.
Et puis on a un problème.
Ça va être tendu, les NAO, cet été, cet automne.
Oui, oui, ça va être forcément tendu. De toute façon, on est dans un pays où la relation sociale est structuré de telle façon qu'il faut que les NAO en amont se soient vus comme étant un peu tendus.
Est-ce que c'est l'heure des consensus, c'est pour ça que je pose la question.
Ce serait pas drôle. Mais au-delà de ça, on a un problème structurel qui est beaucoup, beaucoup plus grave. Comme le dit Antoine Fouché dans son dernier bouquin, comme l'a dit notre ami Léonidas Kalogiropoulos, c'est les instituts de conjoncture. Le travail ne paye plus.
Eh oui.
Les gens, et on le sait, les instituts de conjoncture et statistiques disent bien qu'aujourd'hui, pour mieux vivre que la génération précédente, c'est pas en travaillant. On a des problèmes de compétitivité, donc c'est pas moi qui vais apporter toutes les solutions ce soir, mais ce problème-là, il est extrêmement problématique. Il est extrêmement problématique parce que, où qu'on se place, un entrepreneur qui démarre et qui ensuite crée une communauté créatrice de valeur, s'il n'est pas en capacité d'embarquer des gens pour faire connaître au pays, à son entreprise, ce succès, et par le travail, eh bien, on a un problème gravissime. Aujourd'hui, nous n'avons pas les réponses. Comment, et il faudra régler ce sujet parce que
comment rapprocher
démarrer
le net du brut,
faire bac plus 5, bac plus 6,
non, si vous rapprochez le net du brut, vous avez moins de services publics, vous avez moins de financement de la sécu. Moi, je vais vous le faire très, très...
Vous avez 10 secondes. Hein,
radé pas crête.
Oui.
La toubib chez moi, comme elle n'est pas bien payée, dans mon quartier, il n'y a pas de toubib, il n'y en a qu'une seule. Les autres, ils ne prennent plus personne. Elle a décidé d'être en secteur 3. Ça veut dire quoi, secteur 3 On paye 50 euros, on a remboursé 61 centimes.
Ah, c'est ça.
Donc, on paye 50 euros. Donc, s'il y a moins de protection sociale, on paye 50 balles le toubib et on est remboursé 61 centimes.
Allez, on ne va pas s'attaquer à la
fête de paye. Non, net et brut, il ne faut pas rapprocher.
On fera d'autres sujets.
C'est les revenus du capital qui sauvent les ménages.
On fera d'autres tables rondes, d'autres sujets sur la feuille de paye qui est un sujet qui va devenir de plus en plus un vrai sujet. Oui, on en reparlera bien sûr. Non, 19h52, vrai, hein, l'extra time, tout de suite, vos avis du soir sur 30 secondes, coup de gueule ou coup de cœur pour conclure cette émission. Bah, Frédéric, tiens, est-ce que vous voulez enchaîner?
Alors, coup de cœur et coup de gueule à la fois. Coup de cœur pour les soignantes, parce qu'on va dire qu'elles sont majoritairement féminines, du CHU de Brest, qui ont affiché les noms des personnes de plus de 75 ans qui ont attendu plus de 12 heures à leur CHU. Je pense que c'est un coup de cœur parce que ça veut dire qu'elles ont osé dire: on est en souffrance, on n'y arrive pas, faites quelque chose. Et le ministre d'ailleurs a dit: oh, mais il n'y a pas que cet hôpital, il y en a une cinquantaine en France.
Ouais.
Et ouais. Donc je pense que c'est assez admirable d'avoir osé faire ça, parce qu'elles continuent à bosser, à faire ce qu'elles peuvent, mais d'avoir conscience de ça et conscience de leur mission.
Voilà le coup de cœur ce soir, coup de cœur de...
Et coup de gueule en même temps.
De Frédéric Bocara, c'est un mix ce soir. Alexandre Malafaye, 30 secondes.
Un cocorico pour les entreprises françaises qui participent à l'aventure des JO de Paris.
Et voilà.
Il y a 1300 entreprises qui ont participé, qui ont répondu à différents appels d'offres, dont 550 de l'économie sociale et solidaire. Alors il y a un beau gâteau, hein, il y a plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui a été réalisé, mais c'est magnifique. Et c'est surtout magnifique parce que d'abord, ça fait tourner l'économie, mais surtout parce que, à la limite, au-delà du business, la prestation rendue aujourd'hui, elle est à la hauteur. Il n'y a pas de faute. Voilà, les quelques réglages qui a pu être nécessaire d'opérer au démarrage ont été opérés en matière de sécurité, en matière d'hébergement, en matière de nettoyage, de services sur tous les sites. C'est remarquable. Donc bravo à nos entreprises.
Le coup de cœur également d'Alexandre ce soir pour conclure.
Ah oui, ça
beaucoup de sponsors officiels. Jackie, 30 secondes pour conclure.
Ouais, moi je suis catastrophé par ce qui se passe, je le dis tout à l'heure, en Calédonie. Je vous incite à lire une très bonne interview de Jean-Jacques Brott ce matin dans l'Opinion, qui est l'ancien haut commissaire. Sur ces sujets, les gens là-bas créent de la haine, on va créer de la faim, on a des problèmes d'insécurité majeure. Cet endroit est un paradis, c'est un endroit très important pour la France. Il faut nommer un gouvernement pour régler ce dossier. Ça n'est pas juste un petit bout de caillou à 20 000 km de Paris. Les enjeux sont beaucoup plus importants. Il est urgent d'y arriver.
Ça sera sans doute en haut de la pile des dossiers du futur Premier ministre.
Et c'est un dossier qui, normalement, est attribué à un Premier ministre. Donc voilà.
Peut-être
vite
demain.
Un Premier ministre.
Peut-être demain, si ça se trouve. Merci messieurs d'être venus ce soir. Alexandre Malafaï, président fondateur du think tank Sinopia. Frédéric Pocara, membre des économistes atterrés à Isabello, fondateur du cabinet Parlez-moi d'Impact. 19h55, je vous redonne les grands titres de l'actualité. Donc Thierry Baudet, le nom qui circule ce soir pour entrer à Matignon. Nom qui circule depuis quelques heures après une nouvelle journée de négociation du côté de l'Elysée. Olaf Scholz qui appelle à exclure de toute majorité politique l'extrême droite allemande, qui a donc obtenu des scores historiques hier en Saxe et en Thuringe, arrivant même en tête en Thuringe, une première dans le pays. Cette info de l'agence France Presse qui affirme, document à l'appui, que Volkswagen envisage très sérieusement de fermer des sites en Allemagne. L'Allemagne perd de plus en plus de terrain en termes de compétitivité, c'est ce qu'écrit notamment le patron de Volkswagen, Oliver Blum, dans ce document que l'AFP s'est procuré. Et puis, Xavier Niel, qui depuis hier, on l'a appris qu'aujourd'hui, est membre du conseil d'administration du chinois ByteDance, maison mère de TikTok. Il sera membre du conseil, mais n'aura toutefois pas de rôle exécutif dans l'entreprise. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. À suivre la météo, puis 20h, Tekkenco, François Sorel, Frédéric Simotel et toute l'équipe. On se retrouve demain, nous, bien sûr, 18h, pour nouvelles aventures. Bonne soirée, à demain.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.